Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 16e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Time Quest, le film de science-fiction série B dans lequel un homme voyage dans le passé pour prévenir l'assassinat de John F. Kennedy. Ça n'a absolument rien en commun, à part que les deux sont produits à très très faible budget et mettent en vedette du monde dont vous n'avez jamais entendu parler.
Hey!
Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et de Jean-François Laporte.
Yeah!
Fait que, comment allez-vous?
Ben, oh. C'est ça.
Tabarnak.
Comme un cheveu sale.
C'est de la bonne radio, ça.
Ouais,
hein?
Ouais, c'est ça. Ça vaut comme ça.
Désolé, public. Alors, qu'est-ce que vous avez... Je vous le dis tout le temps.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Commence donc, Dan.
Ah ben, OK, je vais commencer. Et moi, c'était, ben, pas la dernière semaine, mais l'autre d'avant, mettons, là, la semaine de relâche, pour moi. Fait que j'ai relâché en crise. Fait que moi, j'ai pas fait grand-chose. je dirais que j'ai fait une rechute. J'ai passablement joué à WoW.
Ah ouais.
Mmh. J'ai eu du fun pareil.
tu t'en parler?
Non, ça va aller. J'ai rien à dire de particulier.
On s'en sacre.
Je vais d'une autre chute aussi, je vous en reparle un peu plus tard de celle-là. Je me suis pogné un Humble RPG Bundle pour faire d'autres choses que jouer à des jeux vidéo. Qui avait un bundle de livres de Pathfinder
ah,
RPG.
Ah oui, ce bundle-là. Tu dis Humble RPG Bundle, c'est comme, hey, pour jouer à d'autres choses que des RPG.
Pour jouer à d'autres choses que des RPG. Sur des jeux vidéo, pour jouer à des RPG, sur une table avec un papier, puis des crayons, puis pour faire une chanson.
Shout-out à Henri Dice.
Qui nous écoute à chaque fois. fait que je vais avoir une petite gang qui s'en vient, là, m'emmener avec quelques amis, dont Jeff, ici présent, là, si, quelque part d'ici sa retraite, je pense. Là.
Ouais, je vais essayer.
Ouais, c'est ça.
Pas de promesse. Je vais essayer d'ici 2028.
Sinon, la fin de semaine passée, c'était la nuit blanche à Montréal, pour Montréal en lumière. Fait que je vais aller faire un petit tour à la nuit blanche. J'ai commencé la nuit dans les activités... satellite, mettons, avec l'enregistrement live du podcast 3 bières. Un podcast 3 bières, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast où est-ce qu'il y a une couple de personnes qui, avec généralement là, une personnalité plus ou moins connue, mettons, là, qui discutent de sujets qui sont envoyés par les auditeurs qui pigent puis qui boivent de la bière. C'est quand même très intéressant, c'est généralement assez rigolo, assez amusant. Fait qu'ils faisaient un enregistrement live, ça a été très divertissant. Le premier épisode est sorti aujourd'hui. Il devrait avoir un deuxième épisode qui va sortir je sais pas trop quand là, parce qu'il y avait comme trop de stock pour un épisode. Puis il y a même une question de votre dévoué qui a été pigé.
Hey.
Mon moment de gloire. Ma vie est finie, complète.
Est-ce qu'ils ont nommé Divan Quest en se faisant?
Oui, j'ai marqué mon hashtag, mon Divan Quest, le Divan Quest de Twitter dans ma question. Donc oui, Divan Quest a été nommé.
Calique, on va quasiment être internet famous.
Quasiment. À ça. Et lu par Jean-Thomas Jobin, ce qui rajoute pour moi personnellement... Beauté de la chose.
Bon.
Okay. Sinon, j'ai passé aussi à l'Hôtel de Ville de Montréal. Il y avait une petite gang de développeurs indépendants de Montréal qui étaient là, qui présentaient leurs jeux. Beaucoup de jeux à venir qui étaient là. Il y avait aussi un petit display assez drôle. On pouvait jouer à Pong, mais avec des balançoires à bascule. Les bonnets balançoires tape-cul de notre enfance. C'était quand même assez drôle de voir les gens qui essaient de jouer à Pong avec ça. T'sais, déjà que jouer à Pong, c'est à deux, ça doit pas être si évident que ça. Puis en te souvenant, c'est une balançoire, c'était assez comme rigolo, vraiment.
Moi, les développeurs qui essaient de te vendre des nouveaux peripherals, genre pour le temps. Mais...
ouais, je suis pas sûr que c'est vraiment comme c'était solide.
Tout le monde essaye de relancer Rock Band là, avec des balançoires.
Avec des balançoires. Mais sinon, il y avait vraiment une couple de développeurs de petits jeux indépendants. Puis il y en avait plusieurs, mais il y en a un en particulier qui a attiré mon attention. J'ai
un petit développeur nommé Ubisoft.
Ouais, c'est ça. Il me parlait d'un jeu Assassin's Creed. Je ne connais pas.
C'est un sequel à Creed, le film avec Rocky. Ça,
c'est ça, oui. Exactement.
J'ai hâte.
Non, le jeu qui a attiré mon attention, c'est un jeu en fait, qui est développé là, par Co-op Games qui s'appelle Gnog. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Là. G-N-O-G. C'est un jeu de puzzle dans lequel il y a différents mondes. Là. On va mettre les guillemets. Là. Wouch, wouch, les guillemets. Virtuel. Donc, différents mondes où est-ce qu'il y a des puzzles qui sont des genres de têtes d'un paquet de trucs, là, des têtes humanoïdes ou animales. Puis à l'intérieur des têtes, il y a des puzzles qui sont très diversifiés. Comprenez que je me base là, pour la description sur le press kit qu'il y a sur leur site là, parce que le jeu n'est pas encore lancé. Mais ça va l'air très, très intéressant. Moi, de ce qui m'a attiré, là, parce qu'il y avait quand même une papier full de gens qui regardaient, qui jouaient au jeu, c'est le visuel. Je ne l'ai pas essayé là, parce qu'il y a comme plein de monde qui voulait jouer. Puis bon, je vais laisser les enfants jouer. Là. Pour les tasser puis les pitcher. Hein, ça va balançoire bascule.
Disappointed! Hein?
T'en loupes!
fait que t'as pas tassé, t'as un revendeur de jeux la journée du lancement des jeux de Star Wars.
Non, j'ai pas fait ça. Bref, ce qui m'a attiré dans le jeu, hey, on diverge. c'est le visuel, en fait. C'est le visuel, c'est très beau, très coloré, comme, je dirais, un peu pastel néon même, puis ça l'attire mon attention. Fait que c'est un jeu que je vais suivre. J'en ai avec une personne qui était là-bas, justement, puis je suis pas mal certain que c'était Samuel Boucher qui est le créateur, qui est l'artiste en arrière de ce jeu-là, qui est au GDC, ça se peut-tu? GDC, mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Parce que je le suis maintenant sur Twitter.
Cette semaine, ben la semaine prochaine, en fait.
Oui, mais donc, il est déjà rendu.
Oui, sure.
Bref, j'ai jardé avec le gars, puis le gars a l'air tellement passionné par son projet, puis moi, une personne qui est passionnée par son projet, ben ça m'allume vraiment beaucoup. Fait que je vais clairement suivre ce jeu-là. C'est sûr que je vais avoir le goût de jouer, puis si vous avez le goût d'aller jeter un coup d'œil, gnoggame.com, gnoggame.com, vous irez faire un petit tour. Puis toi, Mathieu, ça t'a fait de bon?
Ben, cette semaine, j'ai, suite à, encore une fois, un Humble Bundle, un petit peu comme toi avec les RPG, j'ai joué à Pinball FX2 pas mal cette semaine. Ben, j'étais un fan de Pinball, là, avoué, mais j'ai toujours trouvé que Pinball FX avait un beau produit, puis là, d'avoir justement accès à une grosse quantité de leur table facilement comme ça, ben ça m'a remis dans le bain, puis j'ai eu beaucoup de plaisir, au point tel que, un peu à l'image de mon cabinet d'arcade MAME que j'ai de monter ici, je suis en train de regarder pour peut-être éventuellement me bâtir un cabinet PIN MAME ou Virtual Pinball qu'ils appellent.
C'est like Hyperspin, ça?
Pas forcément. Bref, il y a différentes plateformes qui permettent de le faire, mais bon, dans ce style-là. Fait que c'est ça. Fait que beaucoup de plaisir sur Midball FX2 à découvrir des très très belles tables, surtout. Il y a une table inspirée de Star Wars qui s'appelle le Starfighter. Bien construite, bien, bien intéressante. C'est ça pour le gaming. Un site que je vais lire souvent puis que je me dis tout le temps qu'il faudrait que j'en glisse un mot sur le pod. Pour les amateurs de sport, fait que désolé, ça concerne probablement pas tout le monde qui nous écoute. Mais voilà. Mais sinon, il y a quand même quelque chose pour les moins amateurs de sport. Le site, c'est The Players Tribune. Ça concerne tous les sports. Donc, on a de toutes les ligues professionnelles. Il y a des joueurs qui contribuent des articles. Puis c'est absolument très, très intéressant. Puis ça met en lumière l'intelligence des joueurs qu'on prend pas pour qui est intelligent. Récemment, justement, il y a eu un article de la part de John Scott suite à son échange avec le Canadien, avec toute la controverse qu'il y a eu à propos de sa présence au match des Étoiles parce qu'ils ont fait un vote populaire. Ils ont fait un vote par Internet. Puis c'était comme, il n'y a pas d'affaire là, mais le monde a dit « fuck it, on fait voter John Scott ». Puis il a écrit un article par rapport à ça, justement, par rapport à comment il se sent par rapport à ça. Puis je mets quelqu'un au défi d'être contre sa présence là, après avoir lu sa perspective par rapport à ça. Puis il y en a aussi des joueurs qui prennent leur retraite, etc. Mais c'est toujours des articles que je trouve extrêmement intelligents puis qui mettent en lumière souvent des joueurs qui ont eu des situations moins glorieuses de permettre de s'expliquer et de présenter leur point de vue.
Mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le point de vue justement d'un athlète finalement en général, tu sais, puis pour montrer que c'est pas juste des épées qui ont de la misère à parler comme souvent on les dépeint ça. Là. Ben, il y en a pareil là, mais tu sais.
En fait, de deux articles justement, l'article de John Scott que j'ai trouvé vraiment excellent. Puis l'article de Scott Gomez par rapport un peu à ses déboires qu'il a eu à Montréal, puis la relance de sa carrière, etc. Encore une fois, d'avoir sa perspective, t'essaieras d'être aussi gratuitement négatif que la presse l'a été, puis que les fans aussi en général l'ont été. Tu peux pas rester amer après avoir eu, entre guillemets, une discussion avec un de ces joueurs-là. Fait que, bref, j'arrête ma parenthèse là parce qu'on est hors sujet, mais fan de sport et pas que de hockey, allez faire un tour. Des articles très, très intéressants.
Cool.
Puis toi, Jeff?
Ah, ben écoute, vendredi passé, j'ai un petit peu entre amis, puis pendant le souper, on a eu la chance de tester un jeu de cartes qui s'appelle Love Letters, qui est un petit jeu que, habituellement, le nom va empêcher les gens d'aller tenter l'expérience. C'est pas un nom qui est nécessairement attrayant.
C'est parce que t'as pas joué à la version Batman, c'est pour ça.
Ben, c'est ça, exactement.
Mais tout le monde qui gravite, par contre, autour des board games ont entendu parler, je pense, de Love Letters.
C'est vraiment génial. Pour vrai, c'est la prémisse du jeu, si on veut, c'est qu'on est tout le monde qui est autour de la table est amoureux de la princesse, puis veut être celui qui va être le plus près de la princesse pour aller porter la lettre. Puis on a une série de cartes qu'on va jouer, puis c'est un jeu de bluff puis de déduction à travers quelles cartes les autres ont entre les mains. Il y a 20 cartes dans ce jeu. C'est pas un jeu de cartes comme d'un jeu de cartes standard, c'est plus un. C'est vraiment un jeu de déduction, puis où tu vas regarder les autres joueurs, tu vas essayer de bluffer ton chemin à travers tout ça. C'était super le fun pour un petit jeu facile à apprendre. Ça prend 2 minutes, tout le monde savait jouer. On a passé 2 heures à rire, incroyable. C'est pas le fun.
Mais si vous voulez voir une partie, Will Wheaton a joué sur Tabletop. Il faut voir une game en action, ça peut toujours être le fun.
C'est toujours difficile d'écouter une vidéo de Tabletop et pas avoir le goût d'acheter le jeu après. D'ailleurs, justement, quand on avait le Lourdon Vert, qui était un magasin de jeux de société ici à Joliette pendant quelques années, puis c'était systématique. Aussitôt qu'il y avait un jeu, il y avait un spike de vente.
C'est clair.
Puis le valet, les vendeurs au valet de terrain à Montréal comptent la même chose. C'est toujours le cas. Il y a toujours un spike de vente. Puis les stocks sont toujours rares, soudainement, suite à un épisode de Tabletop.
Hmm. Ben, Love Letters, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour à peu près 10$ sur Amazon. Fait que c'est vraiment dur de se tromper. Puis c'est un jeu qui est super bien coté, en fait. Fait que ça vaut la peine. J'ai aussi testé un petit jeu qui s'appelle Galaxy. Donc, G-A-L-A-K-Z. C'est un jeu qui est gratuit sur PS4 en mars. C'est aussi disponible sur Windows, OS X puis Linux. C'est un shooter sci-fi en 2D inspiré des animés japonais.
Ah oui, oui, ouais. J'avais entendu parler de ça.
Un petit peu comme Macross, hein, dans le style de Macross.
Ouais. Ça ne regarde pas, ça.
Il est facile. Même moi, je le trouve trop facile.
Fait que c'est un shoot'em up, en fait. Là,
un shmup.
Un shmup. Un shmup. Avec les éternels shooters.
Tu peux définir le terme shmup, je vais parler de un tantôt. Donc, on peut
un
sauver shmup, du temps.
Parfait. Dans le fond, c'est un shoot'em up. On a un petit avion qui se...
Un jeu de tir 2D.
Piu, 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 piu. Exactement.
Auto-déroulant.
Ouais,
quelque chose comme ça.
Là. Lui, il n'est pas auto-déroulant, mais il y a un petit élément de contenu généré procéduralement dans le jeu-là ou au niveau de la construction des niveaux. Qui est quand même intéressant, ça amène une belle rejouabilité au jeu. C'est d'ailleurs le même développeur que Skulls of the Shogun, que je sais que Matt, toi, t'avais beaucoup apprécié.
Ah, c'était le fun.
C'est un super petit jeu.
C'est quoi le développeur? C'est 17-Bit Games?
Oui, 17-Bits.
Ouais.
Bit, pas de S. Mm-hmm. Non, c'est super le fun, petit jeu très facile pour un pick-up and play là, quand on veut jouer rapidement quelque chose. Le voice acting et les dialogues sont super bien exécutés, puis les contrôles, c'est difficilement une des forces de ce jeu-là. Fait que... Pour les abonnés de PlayStation Plus, en fait, il est gratuit pour le mois de mars. Fait qu'on peut vraiment difficilement se tromper. Je le recommande.
Cool.
Oui, c'est vrai. J'allais oublier. Jeudi dernier, en fait, c'était la dernière soirée Arcade Montréal.
Ouais.
Chez Arcade Montréal, en fait.
T'es allé?
Je suis pas allé. Parce que je travaillais. Mais c'était leur dernière soirée dans leur local avec la recette, en fait, où on paye l'entrée 20$ pour avoir accès à toutes les machines.
Les soirées, là.
Ouais. Les soirées, oui.
J'ai vu les photos, par exemple. C'était plein. Il y avait du monde à la messe.
Puis on a vu les photos aussi du bar qui sera.
Ouais, qui va être écœur, hein?
Ben, hâte d'aller faire un tour, là.
Ah, c'est l'idée, là. Pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier, ils voulaient ouvrir un bar arcade. C'était difficile avec les règlements municipaux. Ils ont fini par réussir à avoir une dispense, j'imagine, pour l'arrondissement Ville-Marie, je crois.
Ils vont être à côté du Randolph,
ouais,
jeu de société. Là.
Prendre de place pour passer notre vie. Là, ouais.
mais pour à vrai. Côté du Cinco, manger à 5$, board games puis arcade, et voilà.
Fait que c'est ça. Fait qu'à suivre, on va sûrement se faire une soirée Divan Quest chez Arcade Montréal.
C'est certain.
Alors, cette semaine dans l'actualité, une nouvelle étude par des groupes de Harvard, dis-je, et du MIT Computer Science and Artificial Intelligence Lab ont développé un système nommé Polaris.
Tu peux répéter ça 3 fois?
Je pourrais. Ou au montage, je peux copier-coller. Mais bon.
Ah,
alors, un système nommé Polaris qui, à l'aide de code JavaScript, optimise le chargement et la mise en cache des ressources utilisées par les pages Internet, résultant d'une réduction moyenne de 34% du temps de chargement de ces dernières.
Oui, j'ai vu ça, 34%, c'est quand même impressionnant. Là.
C'est significatif.
C'est un métier, là.
Voilà. Waouh, on ne peut rien cacher. On dirait que tu enseignes des maths.
On dirait.
Polaris sera...
Il y a même plus.
Polaris sera bientôt offert gratuitement à tous qui pourront implémenter le code dans leur site et pourrait même être intégré à grande échelle à même les navigateurs web s'il prouve être suffisamment avantageux pour tous. Nous entrerons donc dans une nouvelle ère où notre navigation web sera plus rapide, nous permettant de regarder 34% plus de photos de chats, de juger 34% plus de gens qui posent de la shit inutile sur Facebook et de regarder 26% plus de porn. Oui, le 8% perdu ici est dû au fait que vous allez sûrement avoir fini votre visite avant de pleinement tirer profit du gain de performance. Alors, merci à Harvard et au MIT.
Pour nos auditeurs en campagne, vous allez aussi pouvoir regarder le site de Polaris 34% plus rapidement. Oui, je parle ici de la compagnie qui fait des skidoo.
Dans un autre exemple de pertinence et de nouvelles vraiment bien ciblées de la part du petit bloc trending en haut à droite de Facebook, oui. J'ai appris aujourd'hui même que le chihuahua qui jouait dans le film Legally Blonde est décédé aujourd'hui. Asti qu'on n'a rien à chier. Le 11 mars dernier, soit la journée de l'enregistrement de ce podcast, à partir de 16h, heure de l'Est, jusqu'au 12 mars, à la même heure, Adblock qui a décidé... excusez-moi. Adblock a décidé de se joindre à une manifestation en célébration du jour mondial contre la cybercensure. Hmm. Je sais que le premier commentaire qui vous vient à l'esprit, c'est « Chris, y a-t-il quelque chose qui n'est pas une journée officielle à un moment donné? » Et je peux vous dire immédiatement que oui, hein, y a encore des choses qui n'ont pas encore de journée officielle. De un, Divan Quest, t'as pas de journée officielle.
C'est vrai, ça. Faut que ça change.
Je sais, c'est quand même plutôt choquant d'apprendre ça, là, mais on pense juste que le monde n'est pas prêt. On pense juste que le monde n'est pas prêt.
Ok, t'as raison. Je me sens porté rapidement.
Voilà. Également, il n'y a pas de journée officielle du monde qui chiale à tout qui a une journée officielle.
Hein? Ah, c'est.
Mais contrairement à l'exemple précédent, je suis certain que celui-ci ne saurait tarder. Alors, en l'honneur de journée anti-cybercensure, Adblock affichera à tous ses utilisateurs, à la place des annonces qu'il bloque, des annonces, mais celle-là de Amnesty International. Mais tu sais, c'est correct parce que c'est pour une bonne cause.
Ah oui.
On va classer cette nouvelle dans la catégorie de « c'est impossible d'être contre la vertu », donc de vouloir chialer qu'un logiciel fasse exactement l'inverse de ce pourquoi on l'a installé, parce que c'est bien ce qu'ils font. Fait que j'ai pas de joke à faire. On passe à une autre nouvelle.
Ben oui.
À la fin du mois dernier, McDonald's Suède nous a présenté qu'ils allaient offrir des kits de réalité virtuelle semblables au Google Cardboard, c'est-à-dire un châssis en carton avec des lentilles de plastique dans lesquelles on insère un cellulaire et qui donne une expérience de réalité virtuelle rudimentaire. Les kits sont enfin un redesign de l'iconique boîte rouge des Joyeux Festins que l'on doit défaire, replier et assembler. Comme c'est la tradition avec pas mal tout ce qui vient de Suède, je vais finir par croire. Afin de compléter l'offre, la compagnie célèbre pour ses pailles que tu peux rouler, crisser une pichenote dessus puis que ça fait un son de claquement assez intense, offre une application pour jouer à un jeu de ski. Jeu de ski endossé officiellement par l'équipe de ski alpin suédoise, rien de moins. Voilà. Vous pourrez donc vivre l'expérience de faire du ski alpin sans l'athlétisme requis, sans endurer le froid et avec une odeur de patates frites tièdes qui ne quittera jamais le carton.
Mais tu sais, est-ce que c'est tellement si désagréable?
Ah, l'histoire ne dit pas. Alors, à la conférence B-Sides de San Francisco, une conférence portant sur la sécurité électronique, Michael Rago, directeur de la recherche pour Mobile Iron, a présenté ses trouvailles au sujet de la smartwatch U8. La montre U8, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ce qui devrait être à peu près tout le monde, à moins que ce ne soit pas la première fois que vous écoutiez cet épisode, et dans ce cas-là, je dirais que vous êtes une personne avec un talent exceptionnel pour reconnaître la qualité, est une smartwatch cheapo. Ça va arriver. C'est bizarre, ça fait deux fois que vous riez, cette joke-là. Okay. Est une smartwatch cheapo vendue sur eBay pour un gros 17$ US, offrant tous les rudiments d'une montre dite intelligente, soit un écran tactile couleur de 1,48 pouces, connectivité Bluetooth pour Android et iOS, et la capacité de faire et répondre à des appels. Une application complémentaire pour Android permet d'accéder aux contacts et aux historiques d'appels et de SMS. La surprise vient au moment où, en analysant le trafic et la bande passante utilisée par la montre, on se rend compte qu'elle communique discrètement avec une adresse IP chinoise non identifiée.
Ah ben oui, hein.
Bref, la montre se rapporte à un système en Chine. La teneur des communications est inconnue, mais il peut s'agir évidemment de numéros de téléphone, courriels, noms de contact et même des données GPS et même des données biométriques, la fréquence de vos activités physiques et autres. Alors, il est possible que si vous portez cette montre, un Chinois soit au courant de vos moments solitaires et donnera encore une fois un nouveau sens à l'expression « s'emailer le petit Chinois ».
Tout dépend si vous êtes droitier ou gaucher, non?
Dépend juste dans quelle main tu apportes.
Monsieur Justin J.P. Trudeau.
Just watch me.
Ben oui, Trudeau Watch. On a décidé de sortir mon segment de l'introduction parce que ça avait comme pas rapport avec l'introduction.
Bonne raison. Que,
Trudeau Watch.
Un petit peu d'housekeeping.
Mais oui, mais rien de nouveau cette semaine, en fait. Puis je pense que ça risque de se reproduire de temps en temps. Là, c'est quand même la politique, ça marche pas si vite que ça. Hein? Donc, ce que je vais faire quand ça va se produire, là, qu'il n'y a rien de nouveau à dire, ben, je vais alterner avec ce nouveau segment là, que j'ai un peu introduit la semaine passée et qui m'a fait rire beaucoup, qui est le segment du Journal de Montréal.
Le Journal de Montréal. Criche.
Contient de l'écrapou.
Asti, j'espère que ça soit ça.
Et oui, ce segment contient beaucoup d'écrapou. Donc, quelques petits commentaires du Journal de Montréal. Là, pris directement sur la page Facebook des commentaires du Journal de Montréal parce que c'est beaucoup plus drôle hors contexte que de le lire dans l'article.
Et moins frustrant en général.
Oui et non.
Oh yeah!
On se rappellera que cette semaine, le 8 mars, la Journée internationale de la femme est passée, puis il y a plusieurs commentaires qui étaient probablement en lien avec ça. Ce qui est le fun avec le site, avec la page du Journal de Montréal, des commentaires, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quoi les articles portent, mais on peut faire des suppositions. Je vous laisse supposer vous-même. Donc, j'y vais avec le commentaire de Jean Néasser Grand Mécène, non, Mécène, qui n'a pas fait d'erreur, honorifique, qui dit « La femme ne sera jamais égale à l'homme, ce n'est pas dans ses gènes, le débat est clos pour moi ».
Ah.
Je suis content d'avoir contribué.
Oui, oui.
Chris.
Il y a Jean Barbe, là, que si c'est la vraie personne, qui est quand même une personnalité un peu publique, qui a mis comme commentaire « Cato ». Et le schtroumpf pyromane lui a répondu « Nudiste ». Je trouve que, comparativement à d'autres commentaires, c'est pertinent.
C'était excessivement pertinent.
J'ai un certain Denis qui dit « C'est très important que le président ait un gros pénis ». Prenez par exemple Bill Clinton avec son petit pénis. On a vu ce que ça a fait comme scandale à la Maison-Blanche avec Monica Lewinsky et des cigares cubains entre dans des orifices très intimes. Tandis qu'avec une virilité bien proportionnée, le président se sent plus homme et risque moins d'être un déviant.
Tabarnak.
J'imagine que c'est déviant parce que c'est écrit dévelant, mais en tout cas.
Et est-ce que la personne qui écrit ça s'appelle Denis ou s'appelle vraiment un certain Denis?
Non, ça s'appelle Denis avec... on a quand même... Il y a une censure de son nom de famille. Là.
OK.
On salue Denis.
À tous les Denis, shout-out.
Jonius Néasser IV, empereur. On voit que c'est des personnes qui
fiers
sont,
de la, de
sont vraies ou qui sont...
Il m'a déjà envoyé un courriel, lui.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, ou qui sont princes ou nigériens.
Ouais,
qui dit, auparavant, à la page 7 du Journal de Montréal, il y avait une belle femme plantureuse en petite tenue. On a remplacé ça par la chronique de Martineau. C'est bien pour dire...
Ah, toton pour toton, hein? C'est...
Boréal 49 nous dit « Oui, j'éprouve de la nostalgie. Maintenant, c'est trop facile. Dans mon jeune temps, il fallait travailler fort et être imaginatif pour se rincer l'œil. À l'école de rang, nous, les gars, allions se cacher à l'arrière de la bécosse pour regarder à travers les interstices des planches les filles en train de faire pipi. »
Tabarnak.
Ouais, un peu de vocabulaire, puis pas trop de fautes. Yvan, on a dans le même sujet, qui dit « On peut dire ça de plein de choses autres que la sexualité. Le net a rendu plein de choses possibles en quelques clics. » Quand on voulait savoir quelque chose sur les migales à collier avant, il fallait aller au moins à la bibliothèque municipale. Point. Et trouver une publication qui en parlait. Ou sur les chaînes de montagne de l'Est de la Sibérie, même histoire.
Voyons
dans le cas du sexe, il suffisait d'aller au dépanneur pour en voir. Je sais pas c'est quoi son dépanneur, mais s'il voyait du sexe au dépanneur.
Surtout si au dépanneur, il voyait des articles sur la migale à collier.
Oui, aussi.
Dans Homo, c'est
pour ça. Ben, peut-être dans le Playboy, tu sais, il lisait les articles.
Ouais. Les articles de fond.
Et puis on est un peu encore dans la nostalgie ici. Il y avait le sniffage de colle aussi. Et celui plus amusant, si le gars était assez petit, du « je te mets dans la sécheuse, la porte ouverte et je paye sur le piton ». Jusqu'à temps qu'on sait quoi, 4 points d'exclamation entre parenthèses.
Journal de Montréal, vos auditeurs, lecteurs, dis-je. Bon.
Moi et mon frère et les riverains des Autochtones qui étaient flyés, on a réinventé des classiques. Même le patinage sur asphalte avec patin à glace. Encore là, 3 points d'exclamation entre parenthèses. Oui, oui, ça se fait et ça fait des cris de flamèches. Ah,
j'allais dire hashtag faire des flamèches.
Ouais. Ouais. Puis je finis avec le dernier commentaire d'un certain Jean, mon préféré, quand son commentaire était « vagin
». C'est toujours des surprises.
Jamais ça dépend qui part la tombe.
Écoute, cette semaine...
Écoute.
Public, écoute-moi bien. Mais Danny,
oui.
J'ai pensé à toi cette semaine.
Écoute plus public, c'est pour Danny.
C'est pour Danny.
Danny. Ouais, c'est secret, là.
On va chuchoter.
Écoute.
oui, j'écoute. Là.
Avec toutes les coupures en éducation ces temps-ci, j'ai trouvé le jeu... parfait pour tes élèves. Ah, cette oui. semaine, j'ai découvert le jeu de Division.
Ah ben oui, hein, pour apprendre les maths.
Exactement.
C'est le setup était beaucoup trop long pour la gang.
Donc, c'est un sujet qu'on a déjà abordé là, à quelques reprises.
À peine.
Les mathématiques ou...
de Division.
Ah oui.
Entre autres,
dans l'épisode 4, 8, 9, 10, 11 et maintenant le 16.
En fait, j'ai parlé seulement... quelqu'un qui va nous envoyer un email pour te corriger.
J'espère.
Ouais.
J'espère, j'en ai parlé seulement deux fois. Donc, pénalité. Donc, j'ai parlé quand j'ai parlé des bêtas. Donc, j'ai joué à la Close Beta et la Open Beta, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est The Division, c'est un jeu multijoueur en ligne de tir à la troisième personne. Il y a beaucoup de parallèles qui ont été faits entre The Division et Destiny, surtout depuis quelques mois, là, quand on approchait de la sortie. Mais je vous rassure, l'expérience offerte par The Division est vraiment, vraiment différente. Donc, là où Destiny ressemble beaucoup à un Halo avec quelques éléments qui sont tirés des RPG, The Division, c'est un RPG beaucoup plus complet avec un système de combat qui est totalement différent. Un petit mot peut-être, juste pour expliquer dans l'environnement du jeu, le synopsis du jeu, c'est que durant le Black Friday, en fait... qui est probablement le Black Friday de cette année, de 2015, il y a une pandémie qui s'est répandu à New York à travers un virus qui se fait appeler le poison vert.
Distribué à travers des fours à gaufre à 4 piastres, vendus dans des Walmart.
En fait, distribué à travers les billets de banque qui ont été infectés par ce virus-là, par on ne sait pas qui, en fait, parce que je n'ai pas joué assez pour le deviner. Mais donc,
anyway, spoilers. Hein?
Spoilers, mais c'est ça. Et la maladie s'est répandue extrêmement rapidement. Manhattan a été mis en quarantaine. La ville a été isolée du reste des États-Unis pour limiter les dégâts. Et s'en est suivi un chaos alors que les gangs de rue et les criminels ont pris le contrôle de la ville. Donc, c'est... suite à la prise de contrôle de la ville par tous les brigands et les bandits de New York. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Entre autres, le gouvernement américain a activé le gouvernement américain a activé des cellules dormantes d'agents qui répondent à une cellule de l'armée américaine qui est le Strategic Homeland Division ou The Division. Et c'est ici que le joueur entre en jeu dans le rôle d'un des agents de ladite division.
Qui doit faire des divisions longues maintenant que les calculatrices ne fonctionnent plus.
C'est des experts des mathématiques qui viennent rééduquer le peuple de New York.
Et non, ce n'est pas le premier MMO qui focus sur les mathématiques.
Non, c'est vraiment pas le premier.
ouais, non, Chris, non. La quantité de stats qu'il y a dans ces sticks de jeu-là.
Mais c'est quand, il n'y en a pas trop, c'est quand même bien, c'est quand même abordable.
Abordable?
Oui.
Moi, je paierais pas qu'un billet de banque parce que pogné le virus.
Mm. Ouais. Ubisoft, avec The Division, y atteignent plusieurs points forts. Sérieusement, c'est chapeau. Notamment, dès les premières secondes, nos premières secondes de relation avec le jeu.
Ben, il s'installe, c'est long.
Ben, en fait, il est déjà installé parce que depuis la bêta. Mais le vidéo d'introduction, qui est une vidéo filmée avec des vrais acteurs dans des vrais environnements, c'est un film, en fait, c'est un court film qui explique là, la prémisse du jeu en quelques minutes. Vidéo qui est disponible en ligne. On peut peut-être le mettre sur la page de faire un lien sur notre Facebook, peut-être. Sure. Qui explique qu'il est super bien fait. Ça dure peut-être 2 minutes. Après 2 minutes, j'étais hooked. C'était fait. J'avais pas touché au jeu. J'avais pas envie de le jeu. Je voulais déjà jouer à ça. Ça allait déjà être bon. C'est très, très Tom Clancy-esque là, dans son approche, dans le thème, dans la façon que c'est présenté. On ne s'éloigne pas beaucoup de Splinter Cell et Rainbow Six, mais c'est très, très bien fait. Le souci du détail dans ce jeu-là en est à mourir. L'environnement est incroyable. Les effets de météo, le cycle de jour, le cycle de nuit. On en avait parlé un petit peu, les portes de char que tu peux fermer quand tu te colles dessus. La première fois que j'ai fermé une porte de voiture en me cachant derrière une voiture dans le jeu... Ça a débarré un achievement qui s'appelle Close That Door. Donc, il y a des achievements reliés un peu tout
c'est
ça.
C'est mes préférés, les achievements qui sont un peu random de même. Là.
Ben, qui sont clairement un clin d'œil au fait que tout le monde a accroché là-dessus.
Ouais,
depuis
il y a un gros buzz. Hein,
ouais, aussi dans ce cas-là.
Ouais.
Les graphiques sont incroyables, même si beaucoup de gens se plaignent un petit peu que les graphiques ont été diminués depuis la présentation originale au E3. Mm-hmm. C'était à s'y attendre un petit peu. Le jeu fonctionne quand même très, très bien. Malgré là, tout ce qui peut se passer, puis malgré tous les effets qu'il y a là. Donc, c'est quand même un des plus beaux jeux présentement sur la plateforme, je pense. La physique est incroyable. Tous les échanges de tirs se passent dans des rues. Il y a des voitures un petit peu partout. Tu sais, dans les fenêtres vont briser, vont tomber de façon réaliste. Et les balles perdues qui frappent les pneus de voiture, mais les autos s'écrasent sur le pneu. Quand on tire dans les télévisions vont se briser. C'est des télévisions allumées. Et les télévisions LCD et les télévisions à plasma ne brisent pas de la même façon. Les développeurs ont tiré avec des armes à feu dans des TV pour savoir comment ils se brisaient, pour reproduire ça dans le jeu.
Rigueur.
Pas mal plus que moi.
Shout-out à Yannick qui nous écoute, avec qui je joue au jeu, qui a découvert une lettre, comme ça, qui traînait quelque part dans les intels. Il a trouvé une lettre, puis il l'a lue. Puis dans la lettre, c'est un père qui écrit à sa fille ou son fils, je sais pas trop, et qui mentionne, écoute, tu sais, cet objet-là là, qui est important pour nous, on sait pas c'est quoi l'objet, mais je te l'ai caché au coin de telle rue et telle rue. le mystère, c'est, ben, on peut-tu y aller? Présentement, non, parce que les deux rues sont dans une zone qui est pas encore disponible, qui va venir dans une des expansions, va venir dans les mois à venir. Mais on a vraiment hâte que ça sorte pour aller voir s'il y a-tu vraiment quelque chose à cet endroit-là. Ça serait pas en dehors de la portée là, de The Division, en fait, de faire ça comme ça. C'est un monde qui est extrêmement crédible, extrêmement vivant, de tous les personnages qui l'habitent, qui se promènent. C'est un monde qui est persistant, là. Il n'y a jamais de loading, c'est un seul c'est une seule ville, en fait, évidemment. Là. Mais il n'y a pas de loading, il n'y a pas de chargement, contrairement à Destiny, où on passe notre temps à passer de l'orbite à une planète, de l'orbite à une planète. Là, on est toujours dans le même monde, toujours dans le même univers. Il n'y a aucun loading. Ça se passe, ils te forcent à marcher pendant quelques secondes, mettons, dans des cartes de porte quand tu rentres dans ta base. Puis pendant ce temps-là, ils vont charger tout ce qu'ils ont besoin de charger.
L'espèce de clean room là, ouais. Quand tu traverses le...
Mais c'est ça, ils mettent ça sous le prétexte de désinfecter là, des contaminations du virus. C'est super bien fait. C'est un monde qui est crédible justement parce que c'est un monde qui se passe aujourd'hui. Fait qu'on n'est pas dans l'espace, il n'y a pas des extraterrestres, on peut pas sauter des kilomètres dans les airs. Puis tout est réel, la musique est réelle, les équipes de sport, ça se passe à New York dans une reproduction photographique de New York. Il y a même des photos sur Reddit qui comparent le jeu aux photos prises on location à New York.
Ouais, puis le jeu a l'air plus vrai que la vraie vie. Non.
Mais la résolution est meilleure.
La résolution est meilleure. Mais c'est vraiment semblable. C'est vraiment les mêmes bâtiments, les mêmes choses. Il y avait un article sur Polygon, je pense que je l'ai lu, où le journaliste disait « Hey, je peux tirer des brigands dans les rues en dehors de ma job. » Parce que dans la zone du jeu, il y a le bâtiment où il travaille. Fait qu'on peut se promener dans le quartier autour.
Mais c'est clair. Moi, genre, tu me dirais que... Ils ont Montréal, je pars acheter le jeu, c'est sûr, je connais assez la ville pour me prendre.
Ce qui est toujours un peu weird que Ubisoft ait jamais. Tu sais, il y a eu comme dans Assassin's Creed Rogue. Ouais, mais dans. Mais dans Assassin's Creed Rogue, il y a comme le rocher percé. Là, tout le monde est comme ah, il y a de quoi. Comme Chris, ils sont à Montréal, est-ce qu'on a eu ça. Puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi de Ubisoft qu'on avait un petit peu un insight?
Mais de toute façon, avec Division, je pense qu'ils peuvent les tirer assez longtemps pour acheter des villes puis m'en aller dropper.
Mais en fait, c'est Ubisoft Montréal qui a beaucoup participé là, au développement de Division. Il y a énormément de Easter eggs. C'est à tous les pieds carrés, je pense, qu'il y a un Easter egg. Il a fallu qu'ils populent une ville, fait qu'ils se sont gâtés. Là. Tu vois une boîte de pizza avec un nunchaku jaune orange. Il y a des échos que tu peux trouver qui vont comme te représenter comme en écho, comme des petits points.
C'est des affaires que j'ai trouvé le plus cool. Là, le
ouais, comme en réalité virtuelle, un petit peu, c'est super bien fait. Puis quand tu regardes les personnes dans les scènes, ils ont tout le temps un petit bio qui apparaît. Puis un endroit où il y a un certain Jeremy Pinkman, puis William White. William White qui est supposément décédé, puis l'autre qui est présentement en prison, puis les deux sont dealers de drogue, quelque chose comme ça. Ouais, fait que c'est un clin d'œil à Breaking Bad. La première mission qu'on peut faire dans le jeu se passe au Madison Square Garden. Et tous les posters, quand tu passes dans les chambres des joueurs, ces choses comme ça, c'est clairement... Les chandails des joueurs, c'est pas des vrais joueurs, c'est pas une vraie équipe, pour pas avoir des licences, évidemment. Mm-hmm. Mais c'est clairement inspiré des posters des joueurs du Canadien. les chandails, c'est pratiquement le visage. Mais ils ont pas mis les bons noms en dessous, évidemment. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de clins d'œil à Montréal et au Québec à travers tout le jeu. C'est super intéressant. Le système de combat, qui est un cover shooter, en fait, où on peut...
pousser des portes de char.
Ouais, pousser des portes de char, mais ça, c'est caché derrière les obstacles, puis pour...
puis pousser des portes de char.
Puis pousser des portes de char. Mais le système de combat, il est super plaisant. Puis ce qui est génial, c'est qu'il implique naturellement la collaboration entre les joueurs. Donc, le level scaling, les ennemis qui vont monter de niveau, plus on est au niveau.
Collaboration des joueurs, est-ce que tu peux pousser une porte de char à deux?
Malheureusement, non. Oh. Mais tu pourrais pousser deux portes de char en même temps, par exemple.
Next level poussage de portes de char. OK, c'est bon, j'ai fini. Là.
C'est assez, là. Donc, les ennemis qui vont monter de niveau selon le niveau des joueurs, la quantité d'ennemis qui augmente dans les missions selon qu'on est 1, 2, 3 ou 4 joueurs, c'est pas exagéré. C'est jamais trop difficile. C'est challengeant, mais jamais impossible. Fait que c'est toujours un bon défi, puis ça nous force à travailler en équipe. On se retrouve à pas pouvoir... pas se parler, puis juste être dans une mission ensemble, puis la faire ensemble, on est obligé de se parler, de se couvrir. Il y a les mécaniques où tu peux suppress les ennemis pour les forcer à rester penchés, permettre à tes alliés de se déplacer, d'avancer d'un cover à l'autre, avec la quantité incroyable de skills, de talents, de tout ce qu'on peut customiser nos personnages. C'est vraiment génial. L'immersion du joueur, qui est un des derniers points forts que je vais adresser, c'est que l'immersion du joueur est vraiment est mis de l'avant vraiment beaucoup par Ubisoft. Le personnage est muet. On se passe en 2016, fait que c'est un environnement qui est crédible. L'environnement est photoréaliste. Les NPC nous font sentir spécial, où ils vont tout le temps nous dire qu'il y a une chance que tu es là. Il n'y a personne d'autre que toi qui pourrait faire ça. Les NPC vont out of their way pour te dire combien tu es spécial. Puis je comprends le choix de design d'Ubisoft de faire ça puis de donner le joueur à se croire comme ça. Du moment où tu crées ton personnage, où tu es à la fin du vidéo d'intro, tu vois les agents qui sont activés, mais ils sont chez eux. c'est, sont pas des agents dans une base secrète. Tu vois, c'est la mère de famille qui sort de la chambre, elle endort son petit garçon, elle sort, elle ramasse ses clés, puis elle donne un bec à son mari, puis elle sort. Tu vois, le gars qui conduit son char, puis son téléphone, il sonne. C'est du monde normal qui sont activés pour aller sauver Manhattan, en fait. Fait qu'à travers tout ça, ils veulent t'impliquer pour que tu donnes une... T'as un effet de présence. T'as l'impression que c'est toi qui es dans le jeu, puis tu veux sauver le monde, puis tu veux les aider.
Puis juste au niveau du format de narrative, dans ce que j'ai joué dans le bêta, c'est tout le temps mon problème de ces maudits jeux-là. Tu sais, si c'est un MMO, c'est sûr que tu peux pas avoir un impact direct sur l'histoire au complet. Puis les semi-MMO, là, comme Destiny, puis ça, ont comme conservé ce trait-là que je trouve un petit peu achalant. Mais quand justement je suis rentré dans le bêta là, pour Division, ça disparaît. Là. T'as des cutscenes où est-ce que les NPC font des choses très très crédibles, puis qui avancent l'histoire, puis t'as pas l'impression d'être pris au point neutre ou ce que tu vas juste aller faire du busy work, puis le monde ne sera pas affecté par tes actions. Ce qui est, c'est ça qui est toujours ce que tu veux comme power fantasy de sauver le monde, changer le monde, faire une différence.
Puis c'est cultivé là, constamment. Il y a des, tu marches, les passants vont t'arrêter, ils t'appellent, tu sais, sir, tu vas les voir, puis là, ils te demandent.
T'as-tu une bouteille d'eau?
Une bouteille d'eau, puis ils vont t'échanger ça contre des souliers ou un fusil ou quelque chose. T'as l'impression que t'aides les gens. Sauf que, puis c'est la première faiblesse, je pense, là, qui est reliée à The Division. Autant je peux comprendre le choix de design puis l'objectif de faire sentir le joueur comme un élément important du jeu, ça fonctionne super bien, mais les dialogues d'encouragement des NPC deviennent rapidement répétitifs et puis clichés. À un moment donné, là, d'entendre le monde te dire « Oh, you're so special, thank you, only you can save », à ce moment-là, on est comme « OK ».
En plus de quoi d'aussi intense.
Ah oui, c'est vraiment hyper épais.
Who says that?
Fait, au début, c'est cool. Puis là, tu te rends compte qu'ils ont tous le même dialogue, ils ont tous le même speech. Ça finit par devenir un peu redondant. Mais le jeu est tellement fun. On finit par passer au-delà.
On finit par plus leur donner de bouteilles d'eau pour qu'ils ferment l'œil.
Ouais, non, c'est ça. C'est moins intéressant, là, les petites paires de souliers qu'ils te donnent. Tant j'en ai, les souliers, c'est bon. Le challenge des missions au niveau difficile aussi est une des petites faiblesses peut-être, parce que même si ça force le travail d'équipe, puis c'est super satisfaisant de réussir à passer au travers, puis de vaincre les missions, les ennemis deviennent rapidement des éponges à balles. S'il faut que tes alliés meurent et que tu te ramasses le dernier survivant, c'est impossible.
On avait parlé justement que dans un jeu qui se veut si réaliste, qu'un ennemi soit une éponge à balles, ça passe pas.
Le côté là, HP d'un RPG.
Ça l'emmène, le travail, il faut se mettre à plusieurs pour
attaquer un ennemi. Mais... Puis surtout dans Tom Clancy.
Ouais.
N'importe quel autre RPG pourrait nous suggérer ça, mais Rainbow Six, que c'est du... One shot, là, non, tout le temps.
T'sais, tu joues à Final Fantasy, on dirait que le fait qu'il faut que tu donnes 28 coups d'épée, tu piges des boules de feu, des météores, puis il y a un troc sur le gars, c'est correct. Là.
Ouais, ben surtout que tes bonhommes attendent en rangée que ce soit leur tour.
Mais,
là,
c'est ça, mais dans un jeu comme ça, j'avoue que ça te sort de l'expérience. Là.
Surtout réaliste visuellement comme ça. Puis tout ça.
Ça sort pas de l'expérience parce que le gameplay est vraiment satisfaisant. Il est vraiment bien fait, c'est super le fun. Sauf que, comme je dis, c'est juste quand tu te ramasses tout seul, ben, à un moment donné, on finit par abandonner puis se laisser tuer pour recommencer à 4. Parce que tu ne pourras pas les tuer tout seul. C'est interminable. Avec le lancement, il y a eu quelques glitches. Il y a un petit peu de texture popping. Là, les textures qui apparaissent un petit peu en retard une fois que le tableau est loadé. Il y a des missions sans fin. Que tu arrives à la fin de la mission et elle ne se termine pas ou le boss final n'apparaît pas. Il y a eu le fameux Line Simulator 2016.
Ah, j'ai vu ça.
Où les personnages dans le jeu ne peuvent pas se passer au travers. Fait que t'as de la collision entre les joueurs, puis il y a une table, c'est la première chose que tu dois faire, t'es dans un appartement, puis tu dois donner ta pièce d'identité pour prouver que t'es vraiment un agent de la division, puis il y a un gars derrière une table, fait que une fois qu'il y a trois personnes devant la table, tu peux plus parler au gars.
Et là, il y avait un line-up 6 000 joueurs derrière la table.
Il y avait comme 50 personnes en ligne dans un petit 3,5 qui attendent pour parler au gars, mais il y a du monde qui se sont mis en avant de la porte, puis qui sont partis, ils bloquaient les portes, ou ils bloquaient le comptoir, fait que là, tu pouvais pas jouer parce que tu pouvais pas donner ton identité. Et tu peux pas sauter à The Division. Tu peux pas sauter dans les airs. Tu peux grimper par dessus les obstacles, mais tu peux pas sauter. Donc, tu peux pas passer par en arrière et grimper sur la table pour aller y parler. Fait qu'il y a un petit problème. Ils ont arrangé le glitch. Ils l'ont corrigé. Mais au lancement, c'était drôle. Ça fait des belles photos sur Internet.
Ça rajoutait au côté, genre, le monde est gone to shit.
En fait, c'était voulu. C'est parce que, tu sais, maintenant que les gens vont plus chercher leur copie physique dans un Best Buy à minuit, soir, en fait, fuck you, on va faire leur line-up en dedans.
Comment qu'on fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde qu'on va faire la première quest? Fuck it, ils vont tout attendre à la table dans le 3,5.
À la sortie de la dernière expansion de World of Warcraft, là, Warlords of Draenor, il y a eu le même bug and place dans les premières missions. Après l'espèce de quête d'introduction, t'arrives, puis il faut que t'établisses ta base finalement. Puis pour ça, il faut que tu cliques sur un item. Mais
il était overcrowded. Pas
overcrowded, mais il marchait plus. Il y a eu un bug, ça s'est mis à plus fonctionner sur à peu près tous les serveurs.
Il n'y avait plus de stock, il était depleted.
Oh, ben, c'était une lunette, là, ça n'a pas rapport. C'est vraiment comme. Puis là, le monde, ça remontait des motons, c'était gigantesque, c'est n'importe quoi. Puis je pense la même chose. Il n'y a plus de line-up physique, fait qu'on le fait en jeu.
C'est une stratégie de déploiement des nouvelles expansions.
C'est ça.
Ouais. En comparaison avec les lancements catastrophiques qu'on connaît de Ubisoft avant, là, comme même. Avec Rainbow Six Siege, justement, là, que le jeu était non fonctionnel pendant comme une journée, c'est difficile de critiquer le lancement de Division. Ça s'est super bien passé. Il y a eu des difficultés de connexion au niveau du serveur au début, mais en moins de 2 heures, c'était fonctionnel puis tout le monde pouvait enjoy le jeu. Les quelques bugs restants sont rares puis ils sont facilement corrigés par une patch éventuelle, puis c'est rien qui empêche de jouer présentement. Donc en conclusion, suite aux quelques heures que j'ai investi dans le jeu jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de plaisir puis j'ai hâte de découvrir la suite, particulièrement les fameuses Dark Zone où les joueurs peuvent s'affronter pour obtenir du meilleur équipement. Je suis un petit peu testé dans la bêta, mais je suis pas allé là, dans le vrai jeu. Il paraît qu'ils l'ont beaucoup modifié. Fait que pour ceux qui seraient intéressés, qui ne savent pas de quoi je parle depuis tantôt, puis qui auraient été intéressés, ils l'ont, qui habitent sur une roche peut-être, c'est disponible sur Xbox One, PlayStation 4 ou PC. Puis je vais donner 4 pattes de divan simplement parce que je veux être assis confortablement pour les nombreuses heures que je prévois passer encore dans la ville de New York pour les prochaines semaines.
Donc aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, nous sommes maintenant le 14 mars. Enfin, une journée qui ne revient pas une fois aux 4 ans. Donc 14 mars, je commence avec un dude qui s'appelle Tom Birdie. Je ne sais pas si vous connaissez Tom Birdie.
Tom dit rien.
Non. Je pense que Tom Birdie était un peu de ceux que tu parlais tantôt là, qui trouvaient qu'il manquait de journée officielle. Là. C'est un animateur de radio qui a déclaré que le 14 mars, en réponse au 14 février, oui, serait le Steak and Blowjob Day.
Oh, c'est lui, ça!
Oui, qui a dit quelque chose qui ressemblait à, traduction libre, « Si à la Saint-Valentin, on montre notre affection à notre épouse en dépensant des sommes monumentales pour des cadeaux, on devrait avoir un retour du balancier un mois plus tard. Comment? Simplement en nous servant de gros morceaux de vache morte, préférablement encore saignants, et laissez faire les napkins, c'est à ça que servent le dos de nos mains. Pour le reste, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'explications?
On signe où pour ça?
Je préfère ne pas me prononcer, je trouvais juste ça comique de le rapporter. Avec les naissances, 1863, Casey Jones, là, l'anti-héros au masque de gardien de vue qu'on a pu voir avec les Ninja Turtles. Oh, attendez, on me souffle à l'oreille ici qu'on parle d'un autre Casey Jones, un ingénieur américain.
Disappointed!
1879, un certain Albert Einstein.
Un certain.
1948, Billy Crystal.
Hey.
Mais pour vrai, moi, j'ai toujours trouvé ça plate, les Oscars. Là. Puis il y a du monde qui disent que quand c'était animé par Billy Crystal, c'était vraiment les meilleurs. Moi, je pense que ça aurait été encore plus drôle. Ça avait été Albert Einstein. 1985, une certaine Eva Angelina, aussi appelée en région Eva Angelina. Aucune idée, c'est qui. Je trouvais juste ça cute. Un nom qui rime. 1988.
T'as-tu vraiment aucune idée ou faut que je me vende encore? Là?
On peut-tu pas te croire?
Ouais, j'aime ça garder le... T'sais, une vague. Hein, le mystère,
bon,
le suspense.
Continue.
1988, une dénommée Sasha Gray. Encore une fois, aucune idée. Mais selon IMDb, elle aurait remporté 10 awards entre 2007 et 2011, tandis que Billy Crystal, lui, en aurait remporté aucun. Ça doit vraiment être une bonne actrice.
Elle jouait dans Entourage.
Ouais,
ouais,
c'est vrai.
Une actrice.
Une actrice.
Fait que, punition à Danny pour bullshit.
Pas de quoi te faire. 1592.
Ben, c'est passé, là.
Scanner de Napiness.
Fait que tout le monde, je suis désolé.
Donc, en 1592, c'était le Ultimate Pi Day. Vous connaissez le Pi Day, le 3-14, donc le 14 mars, là, quand on y va avec la notation américaine, mettons. Mais en 1592, c'était le 3-14-1592, donc la journée avec le plus de décimales de pi.
On va quand même avoir un pas pire cette année. 3-14-16.
Ah oui, quand même. Ça.
Quand même.
Mais le prochain plus ultime, voilà. ce serait en 15 926. Mettez tout de suite vos reminders dans vos téléphones. En 1994, c'était la sortie du Linux kernel version 1.0.0. Des cris joie ont été entendus provenant de sous-sols sombres, rapidement suivis par des quintes de toux asthmatiques et par des bruits de pompes de ventolin. J'allais me donner ça. Comme...
Je sais pas, j'ai trouvé drôle.
Ben, hey, c'est pas qu'il est pas drôle, c'est juste c'est chiant. 1995, premier astronaute américain à partir à bord d'un appareil russe. Lors du lancement du décollage, on aurait entendu ceci dans le cockpit. I must break you. Voilà. Dans le gaming, j'ai trouvé qu'en 1994, il y a un jeu qui est sorti sur DOS qui s'appelait Beer Trivia.
Ah! Oh.
Beer Trivia. Selon le fichier d'instruction du jeu, Beer Trivia, c'est pas un... Je vous lis là un peu la traduction, encore une fois, un peu libre. C'est pas un jeu comme aucun autre jeu auquel vous avez joué auparavant. Imaginez que vous êtes dans un party, vous commencez à jouer à un trivia game dans lequel, si vous ne répondez pas correctement, vous devez caler une bière. Après quelques bières, la concentration commence à être plus ardue, puis ça rend encore plus difficile les autres questions. Beer Trivia, c'est comme ça. À chaque fois que vous faites une erreur en répondant à des questions de trivia, là, vous devez caler une bière. Puis là, le readme du jeu dit vraiment... Si vous le faites réellement, ça vous regarde. Donc, dans le jeu, plus vous buvez, encore une fois avec les guillemets, plus tout devient fuzzy et plein de cochonneries en fait, qui apparaît à l'écran, qui fait que c'est plus difficile de lire les questions. Donc, j'ai vu quelques petits screenshots du jeu, puis dans le fond, c'est vraiment qu'ils remplacent des caractères par des caractères un peu random, là, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de lire les questions. Même les questions et les réponses ne sont pas bien brillantes. Là. C'est du genre que tu pourrais te poser dans un party. Alors, j'ai ici un exemple de question avec les choix de réponse. Vous pouvez attendre avant de répondre. Oh, vous pouvez participer, mais attendez les quatre questions. Mm-hmm. Les quatre réponses, plutôt. Mm-hmm. Comment se nomme la zone sombre autour d'un nipple? J'ai laissé nipple en anglais. A, l'auréole. B, fun. C, poilu. C'est marqué en parenthèse. Même si c'est vrai, ne répondez pas C. Je n'ai juste pas pu résister. Et D, urètre.
D.
D.
Voilà, donc c'est impossible.
Je mets ça partout.
Voilà, donc étant donné que c'est impossible de topper ce jeu-là, je vous laisse continuer. Ah, mais en fait, il y avait un truc que j'ai oublié de noter, c'est que quand tu as bu trop de bière, le jeu comme t'arrête automatiquement en disant que tu as un blackout, puis tu peux pas comme, ben tu peux pas jouer jusqu'au lendemain. Je sais pas si tu peux relancer le jeu ou est-ce qu'il y a un lien avec l'horloge. Je voudrais que j'ai pas essayé de retrouver le jeu pour l'essayer. Je trouve ça comique, puis j'arrête là pour l'univers des Divan Quest.
Alors cette semaine, je vous parle de Lords of Thunder, un shmup, comme on a défini un peu plus tôt dans l'épisode, c'est-à-dire un jeu de tir 2D, et dans ce cas-ci, horizontal, qui avance tout seul. Bon. Publié par Hudson Soft, à l'origine sur la Turbo Duo, ensuite sur Sega CD, et plus récemment disponible sur la Wii via la Virtual Console et sur PSN. Jeu assez typique du genre. Il se démarque de quelques façons. Premièrement, plutôt que de jouer un avion ou un vaisseau, on joue un chevalier badass armuré. Bon, c'est juste esthétique comme différence, mais ça change de beat un moment donné. Également, le jeu permet de faire les différents niveaux dans l'ordre de notre choix. Un peu à la Mega Man, là. On a une map, puis on peut choisir, c'est comme des continents, des îles, puis chaque île est un niveau différent. Ça, c'est pas mal moins commun pour un shmup. Et même la sélection de tableaux se fait sur cette musique.
Et oui. Toi, t'aimes pas ça, le métal. Hein?
Et non, c'est une autre chronique de Bonnet où il parle d'un jeu, surtout parce que la musique torche. Et voilà. En passant, toute la musique que je vous fais entendre vient de la version Sega CD, qui est un peu différente de celle du Turbo Duo. On peut pas la décrire meilleure, ils sont vraiment juste un peu différents sur le traitement des instruments. Là,
parce question que la question de chip, j'imagine.
C'est ça, la version Sega CD, c'est le CD qui joue, donc c'est une track audio Redbook, là. C'est un CD point de musique. Tandis que la version Turbo Duo est codée à même le audio chip, mais qui est bon sur le Turbo Duo. Donc, bref, version Sega CD ici. Avant chaque niveau, on peut choisir quelle armure élémentale on portera. Donc, on a évidemment feu, terre, vent et eau, qui change carrément le type de tir auquel on a accès et les effets des upgrades qu'on ramasse pendant les niveaux. Ça donne quand même une rejouabilité intéressante pour ce style de jeu-là. Surtout si on veut se mettre au défi. Parce que les armures d'eau et de feu sont très, très, très performantes. Tandis que celles de terre et de vent, un peu moins, ce qui rend le jeu plus difficile. Donc, en plus des trois niveaux de difficulté que le jeu offre, on a toute cette variante-là qu'on peut aller chercher. Après avoir choisi notre armure, on passe par une boutique avec laquelle on peut acheter quelques items pour nous aider dans le tableau. Là. Genre des espèces de nooks qui wipe l'écran, là, etc. Assez typique, encore une fois, pour ce genre de jeu-là. Bien sûr, si la musique quand tu choisis un niveau est intense comme ce que je vous ai fait entendre, vous vous doutez que ça ne sera pas plus smooth dans les niveaux humains. Donc, on écoute la musique de Si Odin.
Donne le goût de chuter partout. Hein?
Ben, c'est approprié au style de jeu.
Mais j'ai l'impression que ces jeux-là ne seraient pas populaires ou aussi le fun si la musique ne serait pas comme ça.
Absolument. Ah, c'est ce genre de jeu-là où est-ce qu'on a un shooter décent, un shmup décent, qui est augmenté là, par une présentation hors du commun. T'sais. Le jeu visuellement est très très beau, très très coloré. Encore plus sur la version Turbo Duo que Sega CD en passant. Là. Mais oui, c'est un shmup assez by the numbers. Mais. Voilà. C'est...
Ben, le fait d'être un petit chevalier qui vole au lieu d'être un vaisseau qui vole, c'est déjà c'est différent. Pis...
Ouais, ben ça, ben une autre chose justement qui distingue le jeu, c'est qu'en étant justement un gros chevalier badass plutôt qu'un vaisseau, on a une épée qu'on peut utiliser quand les ennemis s'approchent. Ce qui fait. Et puis elle fait beaucoup de dégâts, ce qui est donc une stratégie risque-récompense tout à fait valide dans le jeu. L'arme liée à notre armure aussi peut changer en ramassant des cristaux, puis on en perd quand on se fait blesser. Donc, encore une fois, le capitalisme paye ou quelque chose de même. Là. Fait que ce gag de piètre qualité est commandité par la musique de Shadowrealm qu'on écoute à l'instant.
Le goût de dépoussiérer, mais oui.
Probablement ma toune préférée du jeu, honnêtement, celle-là est juste vraiment excellente. Voilà. Et chaque tableau se conclut avec un boss fight aussi épique que tout le reste du jeu, mais sont assez rarement difficiles si tu arrives avec tes upgrades au fond. Mais c'est justement, tu sais, vu que les upgrades, tes perds quand tu manges du dégât, c'est le genre de jeu que plus tu perds, comme je disais tantôt, il y a un petit côté Monopoly, là, où est-ce que ça devient aliénant. Si tu rushes, tu vas continuer à rusher. Mais bon. Voilà, c'est ça. La version Sega CD du jeu que j'ai joué est un peu plus facile que la version Turbo Duo. Quand on arrive dans les niveaux de difficulté plus élevés, il y a beaucoup des ennemis sur la version Turbo Duo qui font des suicide shots. Bref, t'es tué puis ils tirent une balle. Ce qu'il n'y a pas sur la version Sega CD, à ce que j'ai pu recenser comme information.
Puis les versions, mettons, de Virtual Console puis de PSN, ça serait la version...
C'est la version Turbo Duo.
Okay.
Si je ne m'abuse, on corrigera. C'est ouais, le cas, ouais, là, mais il me semble que c'est la version Turbo Duo. La version Sega CD, complète avec la boîte, se vend autour de 140$ US.
Hey, c'est le prix de deux Divisions. Hein?
Ah, c'est raide. Hein?
Ou d'un Collector Edition.
Avec l'armband là, et tout. Là. Donc, c'est typique des jeux qui ont été découverts justement longtemps après leur sortie. justement par rapport à ce qu'on parlait là, tu sais, il a dû sortir à l'époque, c'était un shmup by the numbers, à une époque où il y en avait quand même pas mal, donc ça n'a pas attiré l'attention.
C'est déjà, c'est pas une console.
Tout à fait, puis là justement, il y a du monde qui finissent par dire « Hey, ce jeu-là, ça va être un shmup standard, bon. La musique à torche solide, puis là, bon, il y a un buzz qui se crée, puis la popularité arrive plus tard. »
C'est plus achetable.
Voilà. Donc, PSN et la Virtual Console de la Wii sont des très bons choix pour jouer à cet excellent jeu, honnêtement. Donc, moi, personnellement, je lui donne 4 pattes de divan chromées avec des flammes en airbrush dessus.
Ah, c'est bon.
Et voilà. Et évidemment, ben, je vous laisse avec une dernière piste, fidèle à mon habitude.
Sur la semaine.
T'as changé de pitch cette semaine?
Je vous ai essayé. Et mais cette semaine, je m'étais promis de tenter une réflexion plus légère. Il me semble qu'après les sujets abordés depuis quelques semaines, comme la liberté d'expression en ligne, l'amour avec un grand A, la relation jeu-famille et même la mort, je serais dû pour un retour aux origines de la chronique.
Vraiment? Je peux-tu hashtag je suis coq?
Trop longtemps ai-je mis de côté les blagues sur nos amis ailés, aussi connus dans le domaine de l'ornithologie, sous le nom latin de poulet. Ou encore les calembours douteux sur l'organe reproductif masculin.
La foule est en délire.
C'est donc avec l'esprit léger et coquin.
On peut les remettre dans le garde-robe.
Oui. Donc, c'est donc avec l'esprit léger et coquin que j'ai entrepris ma préparation, ma réflexion, dis-je, en vue de l'épisode de cette semaine. J'ai pensé porter ma réflexion sur l'étrange relation amour-haine entre Mario et son frère moins populaire.
Paul, je pense.
Ou encore sur l'épineuse question, mais comment diable font les personnages de jeux vidéo pour transporter toutes ces armes en même temps?
Moi, j'aime l'hypothèse du derrière.
Ah. Surtout Metal Gear Solid, le gars avec le suit moulant qui tire un lance-roquette. Anyway.
Mais la vie, cette grande dame, telle un récipiendaire du Darwin Award, a plutôt choisi de forcer le destin et de donner une fois de plus une tribune médiatique à des gens obtus et sans souci de leur prochain. En effet, alors que je m'apprêtais à cuisiner une réflexion ludique et sans engagement social, notre ministre de la Condition féminine, Mme Lise Thériault, a choisi de faire les manchettes avec la citation suivante, et je cite, « Je suis beaucoup plus égalitaire que féministe ». Voilà. Donc, Mme Thériault affirme d'ailleurs croire en l'individu qui prend sa place et que certaines femmes réussissent à se tailler une place dans les domaines professionnels majoritairement masculins. Selon elle, il suffit simplement de aller dans les bons réseaux pour les trouver. S'en est alors suivi une tempête journalistique que notre cher premier ministre a si savamment su comparer à une chasse aux sorcières moyenâgeuses, alors qu'une véritable parade féministe prenait le micro pour dénoncer haut et fort l'hérésie des propos de la ministre Thériault et ensuite sombrer dans une joute verbale à savoir qui était la plus digne de porter la fameuse étiquette dite « féministe ». Mais étant un citoyen de naturel optimiste et parfois même philanthrope, force-moi d'admettre que la position de Mme Thériault sur le sujet est peut-être plutôt avant-gardiste et non pas erronée. Mais il serait selon moi déraisonnable de croire qu'aujourd'hui, en 2016, la cause de l'égalité homme-femme ne soit plus d'actualité. Donc, effectivement, plusieurs femmes réussissent aujourd'hui à se tailler une place dans la société qui autrefois aurait été réservée à la gente masculine. Mon quotidien en est encore une preuve indéniable. Je travaille avec une gestionnaire, une directrice et même la présidence de Vidéotron est occupée par une femme. Mais qu'en est-il de toutes les femmes qui n'ont pas le luxe d'évoluer dans ces fameux « bons réseaux » Celles qui choisissent la gestion familiale plutôt que la gestion d'entreprise, celles qui n'ont pas la chance de grandir dans un milieu favorisé, ou encore toutes les femmes victimes de violences conjugales. évidemment, ici à Divan Quest, notre champ d'expertise se situe plutôt au niveau des jeux vidéo, de la technologie et d'Internet.
Et des gags de coq.
Trois domaines dans lesquels le statut de la femme n'est malheureusement pas plus reluisant.
Je dirais même quatre domaines.
L'information peut voyager à travers le monde en quelques heures grâce aux réseaux sociaux pour le meilleur et pour le pire. Et malheureusement, en août 2014, le tristement célèbre hashtag Gamergate a mis le feu aux poudres et divisé les communautés en ligne. Puis qu'est-ce qui se trouvait au cœur de la controverse? Le sexisme et le harcèlement en ligne. Mais parmi les milliers de voix qui se sont échangées menaces et insultes virtuelles, une femme a choisi de se lever et de prendre action. Donc, fondatrice de l'organisme de charité à but non lucratif Feminist Frequency, la blogueuse Anita Sarkeesian a choisi de mettre en ligne une série de vidéos à travers lesquelles elle explore l'image de la femme dans la culture populaire. Elle dénonce entre autres les stéréotypes qui sont reliés au domaine du cinéma et des jeux vidéo et souligne les enjeux qui sont reliés au harcèlement sur les réseaux sociaux et au sein des communautés de joueurs. Menaces de mort, théories de complot et diffamation sont depuis des éléments avec lesquels Mme Sarkeesian doit vivre au quotidien. Néanmoins, elle a su persister dans ses efforts et inspirée par sa ténacité. Il y a plusieurs initiatives qui ont vu le jour depuis, telles que l'organisation Crash Override Network, qui se veut un groupe de support pour les victimes d'abus en ligne allant du harcèlement jusqu'aux vidéos de revanche pornographique. Le 9 février dernier, Twitter a annoncé la création d'un conseil formé de plus de 40 organisations, dont Feminist Frequency, afin de les assister dans leur effort face au considérable challenge de développer la liberté d'expression en ligne tout en combattant le harcèlement. Sans surprise, une théorie de conspiration a aussitôt vu le jour, selon laquelle Mme Anita Sarkeesian était désormais à la tête d'une dictature digne de 1984, lui permettant de contrôler ce que tous et chacun auraient le droit d'exprimer sur Twitter. On en vient donc à l'inévitable conclusion que, malgré les croyances de la ministre Listerio, le féminisme n'est pas un mouvement désuet et que si de plus en plus de femmes atteignent aujourd'hui un statut social égal à celui de leurs collègues masculins, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre l'équité sociale. N'est-il pas d'ailleurs ironique que les mots équité, égalité et parité soient tous des mots de genre féminin? Mais peut-être que ça ne devrait pas nous surprendre, parce qu'au fond, ce que le mouvement féministe tente tant bien que mal de nous dire, c'est que les femmes ne croient pas que les hommes soient des bêtes esclaves de leur pulsion sexuelle, mais que les hommes sont aussi émotionnellement matures et capables de suffisamment de compassion pour considérer tous et chacun avec respect et qu'ils sont capables de reconnaître les bénéfices sociaux de l'égalité entre les sexes. Le féminisme est donc une belle preuve de conscience envers les hommes qui, je crois, devrait être leur rendu au centuple. Ou en d'autres mots, dans le fond, là, ce que les femmes veulent vraiment nous dire, là, c'est hashtag je suis coq.
Écoute, ouais, magnifique.
On prend-tu deux minutes?
Moi, je prends une minute en réaction parce que c'est tellement important, je pense, de souligner ce que tu viens de dire là. Puis, des trucs qui n'ont pas de bon sens. Tu as parlé de Gamergate qui était beaucoup le plus aux États-Unis ou en tout cas, bref, dans le monde anglophone. Moi, je suis beaucoup Urbania. Puis, hier pour moi, aujourd'hui, donc le 10 mars, il y a un article qui a été publié sur Urbania de la journaliste Lily Boisvert. Je ne sais pas si vous connaissez Lily Boisvert. Lily Boisvert a fait du journalisme, mais dernièrement, c'est elle qui animait l'émission Sexplora, qui était sur le canal Explora. Donc, qui est une émission qui parlait de sujets liés à la sexualité, mais qui était très avec une perspective très journalistique. Mais bref, elle, en animant cette émission-là, elle a été perçue par des crises de morons comme étant une personne qui était... genre, tu pouvais te permettre d'aller sur son Facebook puis d'envoyer des messages, mais affreusement dégradants. Là. Puis l'article, c'était un peu la dénonciation de ça, parce qu'elle a eu de la difficulté un peu à vivre avec ça, parce qu'à un moment donné, tu finis par te sentir tout croche là-dedans. Puis moi, je lisais ça hier, j'étais sur le derrière, parce que j'étais en 2016, que, on va dire des hommes, parce qu'elle a dit, j'ai reçu absolument aucun message de femme, tu sais, qui vient dire « Salut, t'es cochonne ». Parce qu'elle a une émission sur le sexe, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est du harcèlement, puis c'est sur la limite du viol jusqu'à un certain point. Parce que la fille parle de sexe à la télé, d'une perspective très journalistique, ça veut dire que tu peux te permettre d'y faire des avances. Ça n'a tellement aucun sens que... En tout cas, moi, je suis sans mots. Je trouve qu'il faut le dénoncer.
Ça en dit plus sur... c'est cliché de dire ça, mais ça en dit plus sur la personne qui fait ces commentaires-là, de l'état dans lequel il s'est retrouvé à cause de ce qu'il a vu. Mais il l'associe, elle, au contenu sexuel qu'il a regardé, plutôt que de juste comprendre que, comment, c'est journalistique, là, c'est de l'investigation.
Moi, ça me fait capoter. Puis je dénonce. Quand j'en entends, je dénonce, puis il t'a ouvert une porte, je dénonce.
View.
Sérieux, faut qu'on change l'ordre des sujets. Moi, à chaque fois, je suis comme...
OK. Mais non, mais au contraire, on peut pas finir sur ma réflexion.
Bon. cette semaine, je décide de parler d'un sujet un peu différent qui trouve sa source dans le jeu, mais qui dérape un peu. Donc, vous le savez sûrement, hein, le 27 février dernier, Nintendo ressortait les classiques Pokémon Blue, Red et Yellow sur la 3DS là, par la Virtual Console, justement, pour souligner le 20e anniversaire de la sortie de Pokémon Red et Green, là, les deux premières versions au Japon. Ouais, 20 ans. 20 ans que c'est sorti. Ça fait quand même mal quand on y pense. Bref, un gros regain de popularité là, pour les vieux classiques. Puis justement, là, aujourd'hui ou hier, bref, Nintendo annonçait qu'il avait battu tous les records de vente sur Virtual Console avec sans grande surprise, avec ces titres-là. En même temps, pour quelqu'un qui aime le jeu, entre se trouver une vieille cassette de Pokémon au Game Boy qui va se vendre genre 60$ puis qu'on n'est pas sûr qu'elle save, ou le titre sur la Virtual Console à 10$, si tu veux jouer, le choix est quand même intéressant. Mais le gros regain de popularité m'a comme donné le goût de refouiller un peu puis de rejouer aussi. C'est ma deuxième rechute de la semaine de relâche. les gars, je pense que j'ai un problème. Donc, comme tout bon geek qui se respecte et qui avait beaucoup de temps libre, j'ai passé beaucoup trop de temps sur Google à gosser puis à chercher en rond des choses inutiles par rapport au jeu au lieu de l'acheter puis de commencer à jouer. Ce qui m'a fait me rappeler de certains éléments, disons, particuliers à propos de ces versions-là du jeu. Donc, il faut se rappeler hein, qu'on parle d'un jeu quand même gigantesque quand on y pense là, en termes de contenu puis de grosseur de jeu, qui est sorti il y a 20 ans, puis qui fitait au complet sur une minuscule cassette de Game Boy qui n'avait pas une si grosse capacité de stockage. Donc, il y a quand même des conséquences à ça. Hein. Le bug testing était quand même vraiment pas au niveau de ce que c'est aujourd'hui. Bon, c'est sûr, c'est discutable des fois quand on regarde ce qui se passe dans certaines compagnies, mais il y en a qui sont très bonnes pour déceler les bugs. Mais il n'y a surtout pas la possibilité de patcher après avoir envoyé le jeu en production. En tout cas, pas de patcher les versions qui sont déjà sorties. Ça s'est déjà vu de patcher un jeu, puis bon, il y avait quelques versions déjà publiées. Contrairement à Division, quand tu dis qu'il y a un bug de ligne interminable, ça avait été sur une cassette physique de version SNES.
On serait pris avec.
Tu serais pris avec Line Simulator 2016 pour la vie, tu sais. Donc, ça fait que ça va entraîner une utilisation assez clever de petits trucs pour optimiser la patente, dans le fond, au niveau de la programmation du jeu. Mais ça va aussi permettre à des petits smartass de s'amuser un peu avec le jeu de manière tout à fait prévue par les développeurs. C'est justement de ça que j'ai eu le goût de vous parler un peu, des glitches, des bugs. Là, vous excuserez les termes en anglais là, pour le glitch, là, parce que bug semblerait que c'est le terme francophone aussi. C'est écrit différemment, mais il se prononce pareil.
Terme ombrelle. Tout bug.
Ouais, bug. Bref, je vais utiliser beaucoup le terme glitch parce que, tu sais, un glitch, souvent, c'est une. T'sais, un bug vient probablement d'une erreur de programmation. Un glitch est plus quelque chose que tu peux faire autrement. En tout cas, c'est ma compréhension de la chose. Si je suis dans le champ, vous me le direz. Puis, j'ai rien trouvé vraiment pour remplacer efficacement le mot glitch. Là. Donc, on va parler de glitch. Fait que je parle de glitch amusant et ou célèbre dans certains jeux assez connus. Petit avertissement pour commencer. Puis là, j'ai marqué « warming », parce que j'ai une belle faute de frappe qui est drôle. Si vous décidez d'essayer un ou l'autre des glitches dont je vous parle, on n'est absolument pas responsable de ce que ça pourrait faire comme conséquence au niveau de votre jeu. Hein. Considérez-vous averti, puis considérez la chronique comme éducative seulement.
On est absolument assez peu responsable de nos propres actions, donc encore moins des vôtres.
Donc, considérez-vous « warmé ».
Considérez-vous « warmé ». Donc, tant qu'à être dans le mood, on va commencer par parler de Pokémon, justement. Hein? Le site Bulbapédia, si vous ne connaissez pas, c'est un wiki qui porte exclusivement sur Pokémon. Oui, Bulbapédia. Il répertorie pour la première génération de Pokémon, donc Red Green au Japon, puis le Red Blue et Yellow en Amérique, près de 100 glitches qui se retrouvent dans les versions, là, des fois seulement japonaises, seulement US ou tout ça au total. Donc,
alors,
centaine.
On fait le tour de la centaine?
On le fait le tour de la centaine, non. en fait, justement, hein, c'est pas un segment sur Shadowrun, je faisais en parler juste de deux, là, je veux pas qu'on soit encore là demain matin. Puis, j'en ai choisi deux qui fonctionneraient toujours sur les versions qui sont disponibles sur la Virtual Console. Hein, parce que le concept de la Virtual Console, c'est un émulateur qui run les anciennes versions. Oui, il aurait quand même pu prendre le temps de les arranger. En même temps, je pense que ça a fait qu'ils en ont vendu bien plus parce que s'il n'y avait pas eu les bugs, ça n'aurait pas eu le même côté nostalgique. Le seul truc qu'ils ont enlevé, là, c'est dans le fond ce qui était en lien avec l'échange, là, parce que ça prenait le Game Boy Cable. Ils ont changé le type d'échange, puis ils ont aussi enlevé la façon que l'échange se passait qui faisait qu'on pouvait dupliquer des Pokémon à l'époque en tirant le fil au bon moment. Technique qu'on a utilisée.
Mais tu peux pas effacer les bugs, ça fait partie du charme de ces jeux-là.
Ben, c'est ça. T'sais, si tu veux en vendre autant que tu en as vendu, il faut que la nostalgie fonctionne. Puis ouais. Pour qu'elle fonctionne, il faut que tout fonctionne. Donc, le premier glitch, c'est un glitch que je connaissais personnellement à l'époque. Là, on me l'avait montré, hein, entre amis, c'était ça. Parce que oui, j'ai joué à l'époque au premier Pokémon. Dans mon cas, vers la fin des années 90, là, sur un vieux fat Game Boy qui prenait 8 batteries là, puis qui durait 35 secondes, que j'ai malheureusement perdu depuis. Par contre,
en jaune et noir.
Une chance que j'ai jamais eu de Game Gear.
J'ai eu un Game Gear. Hein? Mais j'avais le Power Supply. Moi. T'sais, mes parents ne voulaient pas prendre une deuxième hypothèque. Fait que... Donc, mais j'ai encore mon Pokémon Yellow que j'avais acheté à l'époque, mon Pokémon Yellow original. Puis un Game Boy Color aussi que j'avais acheté turquoise à un ami là, pour pas trop cher, usagé. Bref, voilà. Donc, c'est probablement un des glitchs les plus connus aussi de toute façon de l'histoire des Pokémon. Puis un des plus connus de l'histoire des glitchs de jeux qui font quelque chose d'amusant. C'est le fameux Missing No. Ou Missing No, en gros. La prononciation est pas dite. Pour ceux qui ne connaissent pas Missing No, c'est le nom d'un guillemets, Pokémon qui peut apparaître à la suite d'une séquence d'événements qui est faite par le joueur dans les versions Red et Blue. Je crois que c'est les deux seules versions où il fonctionne, ou en tout cas où il fonctionne de la façon qui est le plus connu. Ça ressemble à un genre de L inversé, si on veut, qui est fait de petites cases graphiques un peu random. Bref, c'est weird.
Il y a de l'air d'un glitch.
Il y a l'air d'un glitch. Il y a tout à fait l'air d'un glitch, puis c'est un glitch. Puis pourquoi il était connu à ce point-là, ça aurait été drôle de pouvoir faire apparaître ce Pokémon glitché-là, mais s'il faisait rien, ça aurait tombé un peu dans l'oubli. Mais non, quand tu voyais ce Pokémon-là apparaître, le sixième item de ta liste d'items, sa quantité était changée à 128. Donc, 128 Master Ball. Le Master Ball, qui est la Pokéball qui te permet de pogner n'importe quel Pokémon d'un coup, automatiquement, puis sans possibilité d'échec. 128 Nuggets, qui sont des items qui se vendent très cher, donc tu as du cash illimité. 128 items qui boostent les stats, qui boostent les levels. Bref, tu peux faire à peu près n'importe quoi. Puis tout ce que tu avais à faire, c'était de rencontrer ce Pokémon-là. Donc, pour le faire apparaître, il fallait jaser à un vieux monsieur qui s'appelait Old Man.
De son petit nom,
qui nous apprend à attraper les Pokémon. Ensuite, il fallait aller sur une île, là, Cinnabar Island, pour surfer sur la côte est de l'île, pour plus de détails. On pouvait à ce moment-là rencontrer des Pokémon un peu random, dont certains dépassent même le niveau maximum de 100 habituel. Je déconseille fortement d'essayer d'attraper ces Pokémon-là, là, parce que semblerait, ou Missing No aussi, semblerait que ça peut fucker la save du jeu assez solidement.
Mais ça m'impressionne, ça. Aujourd'hui, là, trouver des glitches comme ça, il y a des communautés en ligne qui s'organisent puis qui s'échangent le tu sais, comme quand on avait parlé de PT, où là, pour trouver comment passer à travers le jeu, les communautés s'organisaient autour des solutions. Là, ça se faisait pas, là. C'était chacun de son bord dans son sous-sol avec son Game Boy.
Moi, celui-là, c'est quelqu'un qui me l'a montré comme live parce que, tu sais, oui, il y avait Internet, mais c'était le début. C'est peu de monde qui l'avait.
Beaucoup de ces choses-là, par contre, qui étaient ouvertement distribué par les développeurs avec des magazines. Ça criait comme des boss. Tu sais, quand on parlait de Rogue Squadron, dis-je, dans notre segment Star Wars, notre épisode Star Wars, il y avait un des. Le vaisseau de Star Wars épisode 1 qu'on fait débarrer. Ouais. Il a été coulé justement par les développeurs, puis ça crée un deuxième buzz pour le jeu.
Etc. Mais ça, c'était pas un bug.
Non, exactement. Bref. Il y a beaucoup des secrets qui sortent comme ça. Là.
Fait qu'à l'époque, moi, j'étais juste content de dupliquer mes items. Maintenant, mon petit ou gros côté geek me pousse à vouloir comprendre c'est quoi qui se passe en arrière de tout ça, niveau programmation. Dans le fond, quand on va parler au dude qui nous apprend à se pogner le Pokémon, oui, Matt, hashtag se pogner le Pokémon.
Pourquoi tu me cibles?
Ben, notre personnage, dans le fond, change complètement pour le vieux. Puis notre nom change pour Old Man.
What the fuck?
Ben, tu sais, dans le fond, c'est comme si on était le Old Man qui attrape le Pokémon pour nous montrer. Pendant ce temps-là, le jeu, lui, stocke notre vrai nom dans la table qui contient normalement les Pokémon qu'on peut attraper dans la zone où est-ce qu'on se trouve dans le gazon. Puis c'est correct, elle est vide, on est dans une ville, il n'y a pas de Pokémon. Fait que ça wipe la table, ça met notre nom pour le garder en mémoire. Normalement, dès qu'on rentre dans une zone où est-ce qu'il y a des Pokémon, ça overwrite la table, puis ça crée pas de problème. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on se rend à Cinnabar Island, puis la berge, est comme c'est là qu'il y a le bug qui crée le glitch, finalement, est incorrectement définie comme une zone de gazon. Fait quand on reste sur la berge, c'est comme si on était dans une zone de gazon, mais il n'y a pas de table de rencontre de Pokémon. Fait que si tu viens d'ailleurs dans le jeu, tu vas juste rencontrer les Pokémon qui viennent d'ailleurs, ce qui est quand même aussi pratique pour attraper les Pokémon, par exemple, là, de la Safari Zone, pour ceux qui connaissent, où est-ce qu'on ne peut pas utiliser nos Pokémon pour se battre contre. Et petit glitch bonus pour les intéresser. Donc, en temps normal, c'est ça. Sauf que là, toi, tu te promènes là-dedans, puis la table, qu'est-ce qu'elle contient? Ben, elle contient Mathieu. T'sais.
Elle te contient toi.
Elle me contient moi.
Donc, tu deviens un Pokémon.
Je deviens un Pokémon.
Au sens métaphorique.
Donc, ce qui va se passer, là, tu sais, sans rentrer dans le détail, c'est que certaines lettres de ton nom vont définir quel Pokémon tu peux rencontrer, puis là, il existe des tables de concordance. Mais ce qui arrive aussi, c'est que la table essaie de lire ou dépasser le nombre de lettres maximum de ton nom, donc il lit des espaces vides, puis c'est là que ça va comme faire apparaître le fameux Missing No. Missing No, oui, voilà. C'est ce qui fait que ça apparaît. Le deuxième glitch que j'ai décidé de vous parler, c'est un glitch que je connaissais pas à l'époque. Hein, comme j'ai dit, c'était avant les débuts de l'Internet. C'était les débuts de l'Internet plutôt, puis moi, je l'avais pas. Puis lui, je l'ai découvert tout récemment en cherchant un peu sur les manières avec lesquelles je pourrais essayer de compléter mon Pokédex hein, dans la version de Virtual Console sans acheter un deuxième 3DS puis un deuxième jeu de Pokémon pour faire du trade abusif entre les deux consoles. Hein, parce que Nintendo a décidé que tu peux pas avoir juste deux versions puis trader que toi-même. Ça serait bien trop simple. Trouve-toi des amis. J'ai plus de 12 ans, pas juste à faire trader des Pokémon.
Pas juste à faire avoir des amis.
Pas juste à avoir des amis. Puis je trouvais ça weird d'aller voir mes élèves demander « Tu veux-tu me trader un Pokémon? » Donc, ce jeu-là, ce glitch-là plutôt, c'est un glitch qui est souvent connu sous le nom du Mew glitch et ou du Ditto glitch. Là, il y a comme deux volets. Le Mew glitch, pour commencer, c'est la version comme 1.0 du glitch, si on veut, qui nous permet de rencontrer un Mew sauvage qui est niveau 7, qui peut facilement être capturé et élevé comme notre propre enfant. Pour ceux qui ne connaissent pas Mew, c'est le 151e Pokémon de cette version-là, donc c'est le premier Pokémon comme particulier, extra, puis la seule manière de l'avoir à l'époque, c'est dans les événements officiels de Nintendo. D'où l'intérêt du glitch, parce qu'on n'avait pas besoin de se trouver un événement officiel du Nintendo, surtout depuis quelques années, sont plutôt rares, les événements de Nintendo qui donnent un Mew pour le Pokémon de sortie il y a 20 ans. Pour le faire apparaître, dans le fond, il fallait appeler ce qu'on appelle un Long Range Trainer, qui est un trainer contre qui tu peux te battre, qui te voit apparaître de très loin, donc que tu peux le voir, mais que quand tu le vois, il ne part pas tout de suite après toi, il attend une certaine distance. Bref, en rentrant dans la distance dans laquelle il te voit, puis en appuyant en même temps sur Start, ton menu va apparaître, puis si là, à ce moment-là, tu utilises un quelque chose pour te faire te sauver, là, pour voler ou pour te téléporter, ben ça va faire que le menu va se fermer, tu vas voir apparaître le point d'exclamation qui fait qu'il y a une bataille qui part, mais toi, tu te sauves. Puis là, ben, tu t'en vas ailleurs, tu vas te battre contre un autre trainer. Puis là, si on va, par exemple, se battre contre un youngster sur la route 25 qui a juste un slowpoke, ben à ce moment-là, si tu le fais correctement, il faut que lui t'approche parce que sinon, ça peut faire crasher le jeu. Puis après d'être battu contre lui, tu reviens dans la zone où tu étais au départ. En rentrant dans la zone où tu étais au départ, le menu rallume tout seul. Puis quand tu le fermes, pouf, le jeu part une bataille contre un Mew level 7.
Sac, c'est du glitch de luxe.
Dans le fond, on peut l'utiliser aussi avec n'importe quel autre trainer que le youngster dont je parlais. Puis le Pokémon qui va apparaître à la place du Mew va dépendre du stat special du dernier Pokémon contre qui tu t'es battu. On peut aller plus loin aussi, puis aller, avant de revenir à notre tour de départ, se battre contre n'importe quel autre Pokémon, puis encore là, c'est en lien avec son stats qui va, dans le fond, décider contre qui tu vas te battre. C'est un peu la version 2 du glitch, là, mais à ce moment-là, c'est très, très random. Ce qui est intéressant, c'est quand tu peux contrôler c'est quoi le stats random du Pokémon contre qui tu vas te battre, parce que ça va définir qui tu vas rencontrer. Puis là, il y a un Pokémon qui s'appelle Ditto, que sa seule habilité, c'est de copier ton Pokémon. Fait que t'arrives avec un Pokémon qui a un stats particulier que tu veux, tu vas te battre contre un Ditto, il copie, tu reviens à la route d'origine, puis le stats que tu as défini va être le Pokémon contre qui tu vas te battre. Ça te permet de, dans le fond, tu sais, summoner, entre guillemets, n'importe quel Pokémon que tu veux. Hmm. Puis d'où le truc pour remplir le Pokédex de ceux que tu peux pas gagner dans le jeu, hein, parce qu'on se rappelle, Pokémon, c'est fait pour que tu achètes deux jeux, puis que tu échanges.
Et oui.
Voilà. Quand on utilise ce truc-là, on peut même utiliser d'autres trainers que le youngster, comme je disais. Puis on n'est même pas obligé de battre le trainer contre qui on se bat. On peut juste perdre contre lui pour pas le brûler si on veut, puis recommencer le glitch aussi souvent qu'on voudrait. Je l'ai testé, celui-là, parce que je suis rendu à la place dans le jeu où est-ce que ça pouvait se tester, et ça fonctionne numéro 1. C'est très drôle.
Sur la version 3DS.
Sur la version 3DS.
Nice.
Donc encore une fois, le cossé qui se passe est assez drôle, là. L'idée, c'est que Pokémon, comme beaucoup de jeux, vont utiliser des states, des états, si on veut. Tu sais, t'es dans sur la world map, tu rouvres ta carte, t'es dans la map state, tu dans un combat, t'es dans un battle state, le menu state, etc. Quand t'approches du trainer, puis que tu, dans le fond, fais le start en même temps qu'il te voit, ben, t'es rentré dans un battle state parce qu'il t'a vu. Puis là, ben, tu te sauves. Fait que là, le menu, à ce moment-là, bug, marche même plus, tu peux payer le start tant que t'as pas fait une autre bataille qui va te...
Tu vas donner l'accès au Python Start.
Donc là, tu pars une autre bataille, tu te retrouves dans un deuxième Battle State, donc un Battle State dans un Battle State.
Battle State Deception.
En sortant du fight, on est encore dans un Battle State, mais en attente, mais le menu a débarré, ça nous permet de se promener. Ce qui se passe, c'est que quand on revient à la route de départ, le jeu fait comme « Hey, t'es dans un Battle State sur cette route-là. » Puis t'es dans le menu State aussi dans cette route-là, fait qu'il trouve le menu. ça qu'il rouvre tout seul.
Aïe, oui.
Puis là, quand il tombe la nuit, il fait comme hey, t'es dans un battle state. Puis là, il part une bataille. Mais là, il faut qu'il trouve quelque chose à te contre quoi te battre. Puis c'est lui qui va lire, puis c'est ce bout-là que je sais pas pourquoi, encore probablement un raccourci de programmation, il va lire le stat special du Pokémon contre qui tu t'es battu en dernier.
Ouais, il stocke l'information à ce même endroit.
Ben, c'est ça. Mm-hmm. Puis là, ben, c'est là qu'on va aller. On a un petit bout qui est très drôle parce que la table qui contient les Pokémon reliés avec le stat special, ben, c'est comme plusieurs variables, 256 entrées, mais il y a 151 Pokémon. En fait, il y a 39 autres Pokémon qui sont des Missing No. Parce qu'au départ, il était toujours 190 Pokémon, donc c'est juste des Pokémon qui ont été retirés. Mais le reste, c'est là que c'est le plus random des shit. Tu peux te battre contre des Pokémon, entre guillemets, qui ont des skins de d'autres trainers, même de Prof Oak, c'est n'importe quoi. Puis ça, il paraît aussi que ça peut te bugger assez solide. Mais si tu restes dans les Pokémon normaux, ben il y a le petit côté drôle de faire summoner n'importe quoi, puis de l'attraper. Surtout si tu as dupliqué des Master Balls, je sais pas. Donc en dehors des glitches de la franchise Pokémon, parce qu'on pourrait y passer la journée, mais ils sont pas tous très intéressants. Faites une petite liste non exhaustive, puis sans toutes les explications non plus, des glitches intéressants qu'on trouve dans les autres jeux, dans certains autres jeux. Je vais dans le plus vieux, là. Les plus vieux glitches un peu rencontrés de ce genre-là, c'est les fameux kill screen des vieux jeux d'arcade. Mm-hmm. Hein, on parle des jeux des années 80, époque où les jeux étaient souvent quelques tableaux qui roulaient en boucle, en devenant de plus en plus difficiles à chaque fois que le tableau augmentait. Là, je sais pas si c'est parce que les développeurs pensaient pas que ça pourrait se faire, que c'était possible, ou de la paresse de programmation, ou juste parce qu'ils savaient pas trop comment faire, mais souvent, ils n'ont pas prévu ce qui allait se passer si la variable tombait en overflow ou elle dépassait sa valeur normale maximale. Donc, c'est là que ça crée des affaires un peu bizarres. Par exemple, Pac-Man, si tu arrives au level 256, hein, tu sais, le 0 à 255, c'en est un, 256, pouf, ben, la moitié de ton écran devient du gros shit random que tu vois pas vraiment. Puis dans le bout que tu peux voir, il y a juste 9 power pellets qui fait que tu peux pas jamais compléter le level. Donc le jeu devient à ce moment-là impossible à finir. Mais c'est le fameux kill screen, là, puis la game parfaite avec je sais plus trop combien de points que j'ai oublié de noter. Pour ceux qui sont intéressés, il en parle dans Pixel. Non, allez pas voir Pixel. C'est
une blague. il y a beaucoup d'autres bons documentaires qui King of Kongs en parle.
Il y a beaucoup plus intéressant. Mais voir Peter Dinklage dans une petite mini, c'est quand même drôle. Bon.
Calice. Un glitch aussi, c'est comment qu'une maison de production réussit à faire un film comme Pixels. Ils ont dû exploiter clairement un bug quelque part.
Ils ont dupliqué des nuggets. Dans Donkey Kong, dans la même époque, là, une erreur de formule faisait que le temps du 22e tableau devenait 7. Tu avais 7 secondes pour compléter le tableau, ce qui se faisait pas non plus. Donc c'est le kill screen.
Devenait le kill screen. Hein.
Dans Duck Hunt, le 100e stage faisait que les canards sortaient vraiment n'importe comment. Des fois, ils étaient même pas visibles. Donc le chien passait son temps à sortir et de ta gueule.
Dans la version
arcade de ce que je disais. Ouais. Si je vois un peu plus récemment, Mario Bros 1, ou Super Mario Bros là, 1, il y a eu plusieurs glitches là, qui se trouvent. Les plus amusants, peut-être, c'est quand tu arrives à Bowser en étant Super Mario, c'est celui qui a une fleur, puis que tu touches à Bowser en même temps que tu touches la hache.
Yes, si je l'ai fait souvent.
Mario va flasher, puis ça va quand même contester le tableau. Là, le tableau suivant, il part. Puis là, il y a plusieurs versions, là, fait que j'espère que je me trompe pas entre les trucs, là, mais bref, le tableau suivant, il part. Mario a l'air grand, mais si tu te fais toucher, tu meurs. Mm-hmm. Puis si tu pognes un champignon, parce que c'est un champignon qui pogne comme power-up, tu deviens petit. Puis là, si quand t'es petit, tu te fais pogner, tu te redeviens Super Mario puis que tu peux tirer. Puis si quand t'es petit Mario, tu pognes une fleur, ben tu deviens petit Mario, mais yes, avec le skin de ouais. Super Mario. Puis quand tu pèses le bouton pour tirer, ben tu deviens grand comme une seconde puis tu tires les boules de feu.
C'est celle-là que je me rappelle.
C'est celle-là qui était cœur.
C'est celle-là que je me rappelle.
Bref, c'est très, très drôle. Dans le même jeu aussi, celui-là, je ne l'avais jamais comme, vu avant de faire mes recherches. Il y a un tableau un peu secret qui apparaît dans le fond comme un tableau moins 1. Quand tu réussis à le trouver, on y accède là, à la fin du tableau 1-2 en faisant une coupe de manipulation. Je n'essaierai pas de vous l'expliquer vocalement, celui-là, ça serait trop compliqué.
C'est pas là, il faut que tu sautes dans le coin.
Ouais, il faut que tu pètes deux blocs, puis tu sautes dans le coin de la brique, comme à l'envers. Petit.
Là, tu glides en dehors de l'écran.
Voilà, tu glides, tu peux pogner un tuyau, puis le tuyau t'amène au tableau moins 1. Ben, en fait, on dirait que c'est juste, il n'y a pas le monde, puis c'est le monde 1, donc
c'est ça.
Moins
1.
Puis qui est, dans le fond, une copie du tableau 2-2 où est-ce qu'on est dans l'eau, mais avec une petite différence quand tu arrives à la fin. Tu reviens au début.
Ad nauseam.
Toujours, jusqu'à temps que tu n'aies plus de temps et ou plus de vie. Voilà. Je fais un petit saut en avance. Je vais au niveau du Nintendo 64. Hein, c'est les débuts du 3D, ces consoles-là. C'était rempli de bugs qui permettaient de passer au travers des murs et tout ça. Au 64, c'est connu aussi que tu pouvais comme tilter un peu ta cassette puis créer des bugs complètement bizarres avec à peu près tous les jeux. Un des plus connus, là, c'est avec GoldenEye. Si vous googlez GoldenEye Tilt Glitch, ça fait que les NPC, les ennemis, dansent de façon erratique, très, très drôle. Là. C'est assez amusant. Bref, vous le googlerez là, parce que...
Ça va peine d'être vu.
Faut le voir, là. bref, moi, celui dont je voulais vous parler, c'est vraiment plus un glitch là, relié au gameplay, là, pas en c'était le temps cassette. Dans Ocarina of Time, pas dans nécessairement toutes les versions, mais dans les versions les plus vieilles, parce que comme je disais tantôt, des fois tu peux comme corriger le bug dans les deuxième éditions du jeu. À la fin, quand tu te bats contre Ganon, Link se fait désarmer, se fait comme bumper la Master Sword des mains, puis il doit utiliser ses autres trucs pour se battre.
Hey, spoilers.
Ben là, tant pis. Donc, dans certaines versions les plus vieilles, si à ce moment-là, tu presses Start pour sauvegarder puis tu reset, tu te retrouves en dehors de la salle du boss, comme ce qui se fait dans les autres tableaux et tout ça, mais tu n'as toujours pas ta Master Sword. Fait que là, ben, l'affaire, c'est que ça l'amène d'autres trucs intéressants, comme que tu peux te servir d'après toutes les armes à dos de cheval, pas juste de l'arc, puis tu peux te servir des armes de Young Link pendant que tu es vieux.
Sacré. Ça dérape. Là,
ça dérape solide. Je termine avec un glitch là, qui est sans grosses conséquences, qui est plus récent, mais qui est, je pense, un des plus drôles que j'ai vu. Puis là, je te parle pas genre du glitch de pas de face d'Assassin's Creed aussi, qui est un peu creepy. Là, mais... c'est un glitch dans Grand Theft Auto 5 qui est fait dans le fond parce que les cutscenes sont en temps réel dans le jeu. Il n'y a pas de coupure. Puis si tu es poursuivi par la police... Puis tu rentres dans une maison où est-ce qu'il y a une cutscene, ben la cutscene part, mais la police continue de te poursuivre. Puis là, rentre dans la maison, on se met à te chatter dessus, puis là, t'es dans la cutscene en train de jaser tranquillos, puis tu te fais chatter par la police, le sang qui gicle, puis les bonhommes sont là, puis ils parlent. Tout. C'est quand même très, très drôle.
Ça arrive souvent, en plus.
Dans le jeu, tu parles?
Non, mais que les cutscenes, ils glitchent, puis c'est pas juste ça. Là. Des fois, tu conduis un char, tu descends, puis à un moment donné, ton char, il part seul,
ouais, ben...
il fait un accident, ou t'es pendant une cutscene, des passants qui viennent, qui se mettent à se battre dans le milieu de ta cutscene.
Ben, c'est le fait d'avoir des cutscenes en temps réel. Ouais. Mais j'avoue que la version où est-ce que tu te fais chatter par les policiers pendant que tu es en train de jaser est quand même très drôle. Je le voyais sur YouTube, tu as Trevor, puis mon Dieu, j'oublie les noms, ça fait trop longtemps.
Michael
ouais, mm-hmm. qui sont en train de jaser, puis la police rentre, shot sur Trevor à côté pendant que Michael t'assis, puis il parle. T'sais.
Ben chill. Là.
Ben chill, pendant que l'autre se fait chatter, puis l'autre, il n'a pas l'air d'avoir mal.
Ben relax.
Ben relax.
Bref, ça me donne presque le goût de repartir mon Grand Theft Auto 5 juste pour voir ça. Sérieux, il existe un paquet d'autres glitchs là, plus ou moins amusants, mais il y a une grosse majorité qui sont très, très visuels, puis ça se raconte assez mal. Je voulais quand même que ce soit amusant à écouter, pas juste à regarder. Voilà. Good show!
Alors, pour finir cet épisode, on va annoncer les gagnants du concours clandestin qu'on avait annoncé au dernier épisode. Alors, je fais le tirage immédiatement. Et nos deux gagnants sont, via Facebook, Steve Garfield, notre ami de Two Players Mode.
Félicitations.
Félicitations, Steve. Et notre deuxième gagnant, François Saint-JP, qui était via Twitter, @pochien. Voilà, donc on va vous contacter directement par les méthodes respectives lors de la sortie de l'épisode. Fait que félicitations, vous deux.
Félicitations.
Bon jeu.
Oui, amusez-vous. Si vous voulez qu'on vous mette en contact pour que vous jouiez ensemble, vous nous ferez ça. J'en reviens aussi à un petit concours, là, beaucoup moins grand envergure que... envergure que le dernier. Il est temps que le podcast finisse.
Mais on s'en est refait parler, par exemple.
Mais on s'en est fait reparler. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas oublié. C'est juste que je voulais laisser le concours de clandestine toute la place parce que c'est quand même plus intéressant.
Beboué.
Ben ouais, c'est ça. Donc, j'ai parlé il y a quelques semaines de la possibilité de faire tirer un code pour un Mew pour les versions Pokémon XY ou Alpha, Sapphire, Omega Ruby, là, donc les versions les plus récentes sur 3DS. Puis, j'en avoir deux à vous donner finalement. Oh. Donc, il y en a un qui va être lâché et lousse cette semaine sur notre Twitter. Donc, faites le glitch pour vous aller l'attraper level 7 avec une Master Ball. Là. Donc, pour vrai, je mettrai le code sur Twitter ou une photo du code sur Twitter. Puis, premier servi.
Servi.
Je vous dis, il est temps qu'il finisse le pod. donc, ça sera sur Twitter. Je suis pas trop. Je vous dis pas quand, dans la semaine à un moment donné, là, entre la publication du pod et le vendredi qui suit. Voilà. Pour l'autre, ben, petit concours, parce que j'ai deux codes. Là. Il y en a un qui va être droppé, l'autre, amusons-nous. On va aller sur le site divanquest.com/concours. On va avoir un petit formulaire Google là, qui va être là, puis une petite question à répondre. Donc, on fera le tirage au prochain enregistrement. Donc, si on finit ce podcast-là, avant que je me mette à dire encore plus n'importe quoi, pour trouver les derniers épisodes, on va sur divanquest.com. S'il y a du feedback, du hate mail sur Twitter, au twitter.com/divanquest, sur Facebook, au facebook.com/divanquest, par courriel, divanquest@gmail.com. Notre podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois au rzoweb.com, encore dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com. Aussi sur iTunes, allez commenter, mettez des petites étoiles, faites comme... Oh, personne de nouveau cette semaine.
Hey, on a un sad trombone.
fait live en passant.
Ah, pour vrai, c'est...
On a les droits dessus pis tout, là.
Oh, oui, my on a les God. Droits dessus pis tout. Ça a été fait gracieusement par ma copine.
Fait acheter notre salle de trombone sur iTunes.
2,99.
On est legit.
Sans compression, en flac et en...
en lossless. Oh,
et sur cette connerie, on se revoit dans deux semaines.